18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour votre grand journal du soir, toujours à distance, mais toujours très proche de vous, on vous l'assure, et jusqu'à 20h. À la une de l'actualité ce soir, la situation critique dans les EHPAD où les décès se multiplient, comme à Paris et dans le Doubs, mais aussi dans les Vosges. Hier, nous ferons le point complet dans un instant dans votre journal, Isabelle Billet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
À 18h20, allons-nous vers une pénurie de produits frais dans les grands magasins, dans les hyper et autres? La question se pose. Le ministre de l'Agriculture lance un appel pour aider nos agriculteurs. Y aura-t-il des conséquences en magasin? Ces agriculteurs qui ont besoin de bras, de main-d'œuvre. Je poserai la question au patron de Lidl, Michel Biérot, dans 20 minutes à mon micro. Et puis à 19h30, après les paroles de soignants, hier soir, ce soir, nous rendons hommage à ceux qui sont sur le terrain, coûte que coûte. Les marins-pêcheurs, les éboueurs, les instits, les routiers, ils seront avec nous depuis toutes les régions de France. Voilà le programme de ce soir. Toutes les équipes qui restent mobilisées avec un seul objectif, là encore, vous informer le mieux possible jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Ma soeur avait de la fièvre. Je téléphonais tous les deux jours et ça allait en s'empirant, c'était sûr.
Les résidents des EHPAD payent un lourd tribut. Les personnes âgées fragiles sont particulièrement sensibles au virus et les décès se multiplient. On en parle dès le début de ce journal.
Et le problème de l'engorgement des hôpitaux du Grand Est, un TGV médicalisé sera affrété demain pour évacuer 30 patients de Strasbourg et de Mulhouse vers des régions, elles, moins touchées.
La seule usine en Europe qui produisait de l'oxygène médical a fermé il y a un an dans le Puy-de-Dôme. Plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui pour réclamer sa nationalisation.
Les mots du ministre de l'économie sont forts. Bruno Le Maire compare cette crise à celle de 1929. Le gouvernement détaille les mesures mises en œuvre pour venir en aide aux entreprises et aux salariés.
C'était inéluctable, une décision de sagesse. Les JO de Tokyo sont reportés au plus tard, à l'été 2021. Il avait créé avec René Goscinny le Gaulois le plus célèbre du monde. Albert Uderzo, dessinateur de la bande dessinée Astérix, est mort à l'âge de 92 ans dans son sommeil. L'hommage sur Europe 1 d'Anne Goscinny.
Mon père et Albert, on pense qu'ils ont créé une œuvre, mais très bien plus qu'une œuvre, ils ont créé un mythe.
Et puis lui a succombé au coronavirus. Le génial trompettiste Manu Dibango est mort aujourd'hui en région parisienne. Tellement génial que Michael Jackson lui avait volé l'une de ses chansons. La Bourse de Paris a terminé ce soir sur un très fort rebond, plus 8,39% à 4243 points.
Bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Le temps de ce mercredi avec vous, encore du soleil.
Allez. Oui, encore du soleil, effectivement, Nathalie, sur la moitié nord du pays. Nous aurons plus de nuages, de vent et de neige au sud. Et puis des températures qui continuent leur baisse. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Isabelle Millet.
Protégeons nos aînés. Les Français sont très inquiets après l'annonce de plusieurs décès ces dernières heures au sein des EHPAD. Et on comprend bien sûr cette angoisse de tous ceux d'entre nous qui ont un proche dans ce genre d'établissement, sachant que les personnes âgées, bien sûr, sont particulièrement sensibles au virus. Pauline Jacquot, les cas se multiplient.
Oui, une situation particulièrement dramatique dans certains établissements. 16 personnes sont décédées dans l'EHPAD de la Fondation Rothschild dans le 12e arrondissement de Paris. Selon Le Parisien, la plupart étaient âgées de plus de 90 ans et atteints de pathologies lourdes. C'est en ce moment une situation extrêmement dure, dit la direction. Nous sommes mobilisés pour tenter d'y faire face. En Haute-Marne, l'EHPAD de Saint-Dizier compte lui 13 morts, la plupart à cause du coronavirus. Et dans les Vosges, ce sont 20 résidents d'un EHPAD de Cornimont qui sont décédés. La sœur de Roger Brissinger fait partie des victimes.
Ma sœur avait de la fièvre. Je téléphonais tous les deux jours et ça allait en s'empirant, c'était sûr. Le problème, c'est que on ne sait pas pourquoi que ça est arrivé là. J'espère pas que ça vient de Strasbourg, que ça vient de Mulhouse. Mais en fait, ça se peut aussi que ça vienne de là. Ça fait sûrement assez longtemps que le virus est là.
Sur les 20 personnes qui sont mortes dans cette EHPAD des Vosges, 4 étaient diagnostiquées positives au coronavirus. Les tests sont évidemment loin d'être systématiques dans tous ces établissements. Les agences régionales de santé sont en train d'essayer d'avoir une idée très précise de la situation en récoltant les données parmi les différents établissements présents sur leur territoire.
Merci Pauline Jacquot.
Et nous sommes en direct ce soir avec Patrick Peloux, président de l'Association des médecins et urgentistes de France. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1, Patrick Peloux. On l'a entendu, 20 résidents dans un EHPAD des Vosges hier, aujourd'hui 16 victimes d'un EHPAD du 12e arrondissement de Paris. Comment peut-on en être à un tel bilan ?
Parce qu'il y a le virus, et que le virus tue, et le virus, comme c'est ce qu'on dit depuis plusieurs mois, est dangereux, et nous sommes en plein dans la vague. Il faut saluer le travail des directions de ces EHPAD et des personnels qui y travaillent, parce que c'est pas facile. Et parce qu'on a choisi une politique qui a été de dire, on va confiner les personnes âgées dans les EHPAD pour pouvoir les soigner, pour pas qu'elles soient contaminées si elles viennent à l'hôpital, et pour pas qu'elles contaminent l'hôpital si elles viennent. Mais le problème, c'est que ça a des conséquences. Alors, entre cette politique de dire, on les confine dans les EHPAD, et les abandonner, il y a deux poids, deux mesures. C'est pour ça que moi, je rejoins le fait et les réclamations des personnels et des gériatres de dire qu'il faut mettre les moyens dans les EHPAD, en masque, en tenue de protection, en gants, mais aussi de donner accès, notamment, à ce traitement innovant avec la chloroquine et ces idées de traitement, de manière à soigner ces personnes et pas les laisser sans soins.
Mais ce que vous nous dites, c'est que c'est surtout une vingtaine de personnels, on apprend qu'une vingtaine de personnels a été testée positive au Covid-19. Vous imaginez, testée positive au Covid-19 dans cet EHPAD parisien. Comment on peut en être là aujourd'hui? Si le personnel est testé positif, comment peut-il continuer à s'occuper de ses patients, à s'occuper de ses résidents?
Ah bah, logiquement, ils ne peuvent pas. Ils doivent être confinés pendant une période de manière à être sûr qu'ils ne développent pas la maladie et qu'ils ne sont pas contagieux, d'accord ? Voire leur donner un traitement s'ils commencent à développer des signes. Ça, c'est le premièrement. Deuxièmement, évidemment que le personnel est le premier touché. Vous vous êtes fait écho des 5 médecins qui sont décédés. Les médecins sont en première ligne. Le virus passe et contamine les soignants. Ça, c'est ce qu'on vit tous les jours. Nous avons plusieurs dizaines de médecins et de soignants qui sont malades en France à l'heure actuelle, même certains en réanimation. Donc, c'est une épidémie grave. Alors, attention, pour ne pas affoler
les
auditeurs et les familles des auditeurs, dans 80% des cas, nous restons sur ces proportions. 80% des cas, c'est des syndromes infectieux qui sont facilement contrôlables à domicile et on arrive très bien à le faire. Les médecins traitants, les médecins de ville savent parfaitement les gérer. Dans 20% des cas, et c'est cela dont on parle, la pathologie devient grave, voire mortelle, et on reste sur 1,7-1,8% de mortalité.
Merci Patrick Peloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France, d'avoir été en direct avec nous ce soir sur Europe 1. Concernant maintenant les hôpitaux, le principal problème en ce moment, vous le savez, face à l'afflux des patients, c'est l'engorgement des services de réanimation. Les autorités tentent donc de trouver la parade. Et pour la première fois demain, un TGV médicalisé va être mobilisé, Aurélien Fleureau.
Oui, ce TGV partira demain matin de la gare de l'Est à Paris, direction Strasbourg et Mulhouse, pour transporter 30 patients qui seront ensuite évacués jeudi vers des hôpitaux dans des régions moins touchées par l'épidémie, comme le Sud-Ouest par exemple. Ce sera une première en Europe, a précisé cet après-midi Olivier Véran, le ministre de la Santé. La SNCF met donc à disposition un TGV classique à 2 étages et ce transfert va ressembler à un exercice qui avait été réalisé au mois de mai l'année dernière avec les équipes de l'APHP et du SAMU. C'était un exercice de médecine de catastrophe, en l'occurrence une simulation d'attentat pour valider un nouveau concept, l'unité mobile hospitalière et ferroviaire. Lors de cet exercice, des civières étaient installées au-dessus des sièges où les passagers s'assoient habituellement. La voiture bar devient le lieu où les décisions sont centralisées. C'est donc un TGV sanitaire qui est en train d'être préparé, alors que jusqu'ici, les évacuations ont plutôt été organisées par voie aérienne, ayant concerné un nombre de malades plus limité. Aujourd'hui encore, 6 personnes hospitalisées à Mulhouse ont été évacuées par un avion militaire en direction de la Bretagne.
Les précisions d'Aurélien Fleureau. Et noté qu'un premier malade a été admis par ailleurs cet après-midi dans l'hôpital militaire de campagne de Mulhouse. Il y a 30 places en tout, là encore, pour tenter de désengorger les urgences.
Et la France qui manque, on le sait, de masques, de gel hydroalcoolique, mais aussi de bouteilles d'oxygène médical, pourtant indispensable hein, dans les services de réanimation.
Oui, Dieu sait qu'on en utilise beaucoup hein, en ce moment, sauf que la seule usine qui en produisait en France et même en Europe, l'usine Luxfer à Gerza dans le Puy-de-Dôme, a été fermée en mai dernier par sa direction britannique. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon notamment réclament sa nationalisation et c'est aussi ce que souhaitent les anciens salariés Jean-Luc Boujon.
Oui, absolument, car cette production de bouteilles d'oxygène médical importante en temps normal est devenue stratégique depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Ces bouteilles, ce sont tout simplement les malades souffrant de problèmes respiratoires qui en ont besoin, lors de transferts pour des respirateurs portatifs ou quand on installe une structure hospitalière provisoire et qu'il n'y a pas de réseau d'oxygène. On pense ici par exemple à l'hôpital de campagne de Mulhouse. Or, Luxfer Gerza était le seul fabricant européen de ce genre de bouteilles, car effectivement l'usine a fermé il y a 16 mois, décision de son propriétaire anglais, alors qu'elle était parfaitement profitable. Mais elle peut très vite repartir, assure son délégué CGT Alex Peroncic, qui a occupé les locaux jusqu'à vendredi dernier pour empêcher la destruction de l'outil de production par son propriétaire.
Tout est laissé en l'état, les locaux, il y a les machines. Nous, ça fait plusieurs mois qu'on bloque et qu'on empêche la destruction de notre outil de travail. Donc c'est prêt à repartir, il nous faut juste tout ce qui est homologation et puis l'approvisionnement en matières premières et on peut y aller. Le président l'a dit lui-même, ça serait une folie de laisser partir certaines productions, notamment la protection et le médical du territoire français et européen. Nous, on rentre totalement dans ce cadre-là. Donc nous, ce qu'on dit, c'est on doit rester sur le territoire et être placé en dehors des lois du marché.
Voilà, appel lancé au gouvernement et en particulier au ministère de l'économie qui en ce moment examine tous les cas de ces entreprises devenues stratégiques avec la plus grande attention.
Jean-Luc Bonjean, correspondant d'Europe 1 en Rhône-Alpes. Et alors qu'Édouard Philippe a annoncé hier la fermeture des marchés, sauf rares exceptions, le ministre de l'économie Bruno Le Maire en appelle, Isabelle, au patriotisme économique de la grande distribution pour soutenir les producteurs impactés par la fermeture de ces marchés. Hein.
Oui, appel à la solidarité envers nos agriculteurs. Mais Bruno Le Maire a également dressé un diagnostic plus global de l'économie avec des prévisions très sombres. La croissance française va être bien inférieure à ce qui était prévu dans le budget rectifié avec un recul d'au moins 1%. Et alors que la situation pour les entreprises est chaque jour un peu plus compliquée, Bruno Le Maire tente de les rassurer. Le ministre souhaite les aider, mais aussi aider les salariés qui sont bien sûr eux aussi très impactés, Emmanuel Dutheil.
Oui, pour Bruno Le Maire, la crise actuelle est comparable à celle de 1929. Les mots sont bien évidemment très forts et du coup, pour traverser cette crise, le gouvernement veut limiter au maximum les licenciements. C'est pour cela que le chômage partiel a été étendu. Plus de 700 000 personnes sont déjà concernées. Pour ceux qui arrivent ou qui sont obligés d'aller au travail, le gouvernement souhaite que les entreprises de toute taille versent des primes et notamment utilisent la fameuse prime Macron de 1 000 euros défiscalisée. Les petites entreprises ne seront pas obligés de lancer un plan d'intéressement pour en faire profiter leurs salariés. Cette obligation vient d'être levée. Le gouvernement enjoint par ailleurs les entreprises à aider plutôt les salariés que les actionnaires. Les fameux prêts garantis par l'État pour aider les entreprises seront par ailleurs disponibles dès demain auprès des banques. Sur Europe 1, à la mi-journée, un des dirigeants de BNP Paribas disait que les entreprises les plus en difficulté seraient servies en priorité. Enfin, le gouvernement dit avoir établi une liste d'entreprises industrielles qui auront certainement besoin d'un soutien financier de l'État, par exemple via une nationalisation.
Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Le confinement, pour combien de temps? Emmanuel Macron continue de consulter les spécialistes. On attend toujours l'avis du conseil scientifique. Conseil dont vient de démissionner d'ailleurs aujourd'hui le professeur Didier Raoult. Il l'annonce cet après-midi à nos confrères du journal Les Échos. Didier Raoult qui défend depuis plusieurs semaines un traitement à la chloroquine, mais avec des données statistiques jugées encore trop faibles par certains experts.
Et notez qu'Emmanuel Macron a installé ce soir à l'Élysée un autre comité composé de 12 chercheurs et médecins chargés de conseiller le gouvernement sur les traitements et les tests contre la maladie. On va y revenir avec les grandes voix dans 15 minutes maintenant.
Et puis je vous livre, Nathalie, les résultats de notre enquête quotidienne avec BVA et Orange sur la façon dont les Français appréhendent cette crise collective à titre individuel. Principaux enseignements de cette sixième vague, une suspicion croissante quant à la qualité des informations relatives au coronavirus. 42% des Français seulement se déclarent confiants quant à la qualité de ces informations qu'ils trouvent dans les médias. C'est 5 points de moins qu'hier. Une proportion équivalente se montre confiante à l'égard des infos reçues cette fois de la part des pouvoirs publics. Un score qui est là aussi en baisse. Dans ce contexte, les doutes sur la façon dont le gouvernement gère la crise s'accentuent et la confiance sur ce sujet connaît une baisse continue. 37% seulement des Français se déclarent confiants. Vous retrouverez bien sûr cette enquête détaillée comme tous les jours sur notre site internet europe1.fr. Notez que l'Inde, pays d'1,3 milliard d'habitants, est désormais elle aussi confinée et ce pour au moins 3 semaines.
Oui, c'est Didier François qui nous expliquera dans une seconde, enfin plus exactement dans une heure, les risques, les conséquences. Et puis on vous le disait, c'est désormais officiel, les Jeux Olympiques de Tokyo qui devaient se dérouler cet été sont reportés.
Alors vous me direz, c'est normal, on ne pouvait pas prendre le moindre risque, c'est vrai, mais c'est quand même un coup de tonnerre. Les JO, c'est le plus grand événement sportif planétaire. Et jusqu'à présent, ils ont toujours eu lieu, toujours sauf pendant les deux guerres mondiales. C'est donc une première en temps de paix. Bonsoir Corinne Boulou.
Bonsoir.
L'annonce est intervenue, Corinne, en tout début d'après-midi.
Oui, effectivement, c'est un échange téléphonique entre le Premier ministre Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, et le patron du Comité international olympique, Thomas Barr, qui a fait basculer cette décision vers un report historique. La pression était devenue forte ces dernières 48 heures de la part des poids lourds de l'olympisme, comme le Comité olympique américain ou la Fédération internationale d'athlétisme, favorable à ce report. Le choix a donc été de reporter d'un an les Jeux au plus tard, à l'été 2021. C'est donc un choc, bien évidemment, pour le Japon, qui se préparait depuis 7 ans à accueillir le plus grand événement sportif de la planète. Mais ils étaient nombreux à attendre cette annonce, comme me l'a confirmé Florent Manaudou, champion olympique à Londres, vice-champion olympique à Rio, sorti de sa retraite il y a un an pour reprendre le chemin des bassins afin de viser l'or à Tokyo. Florent Manaudou, plutôt soulagé donc.
C'est la meilleure décision qui a été prise. On était un petit peu dans l'attente depuis... un peu plus d'une semaine, voire même un petit peu plus. C'était dur d'essayer de s'entraîner et de se dire peut-être que les Jeux sont dans 4 mois et qu'on soit pas prêt. Mais ce sera que positif, moi j'aurai un an de plus pour me préparer, c'est bien.
Voilà, un Florent Manaudou confiné dans son appartement à Marseille, qui continue comme il le peut de s'entretenir physiquement pour être présent l'an prochain à Tokyo, comme bon nombre d'ailleurs de champions en mode pause en ce moment en raison de la pandémie de coronavirus.
Évidemment, merci beaucoup Corinne Boulou du service des sports d'Europe 1.
Et l'actualité, Isabelle, c'est aussi la disparition de l'un des papas d'Astérix et d'Obélix. Les irréductibles Gaulois et tous les amateurs de bande dessinée sont bien tristes depuis qu'ils ont appris la mort d'Albert Uderzo.
Le dessinateur a succombé à une crise cardiaque la nuit dernière dans son sommeil. Mathieu Charrier, c'est bien simple, il est pour beaucoup d'entre nous le premier auteur que l'on a lu avant même de savoir lire.
Et pour cause, Isabelle, il s'est vendu dans le monde près de 400 millions d'exemplaires d'Astérix, beaucoup plus que Tintin, par exemple. Albert Uderzo, éternellement indissociable de René Goscinny. Goscinny aimait la ville, Uderzo la campagne. Goscinny détestait les animaux, Uderzo avait des chiens, des poules, et pourtant, ces deux-là étaient inséparables. À leur rencontre à la fin des années 50, ils imaginent d'abord les aventures d'Oumpapa, un petit indien, mais très vite, Goscinny a l'idée d'un irréductible petit gaulois réfractaire. Astérix est né, Uderzo aime raconter qu'il lui a soufflé l'idée d'Obélix. C'est ça qui fera le succès de la série. Deux personnages qui passent leur temps à se chamailler, à se répondre. Alors quand René Goscinny décède prématurément d'une crise cardiaque en 1977, Uderzo est terrassé, il veut tout arrêter. Devant l'insistance des fans, il reprendra la série seul. Anne Goscinny veut croire que leurs personnages vont continuer à vivre.
Mon père et Albert, on pense qu'ils ont créé une œuvre, mais très bien plus qu'une œuvre. Ils ont créé un mythe. Et un mythe, un jour, on ne sait même plus qui l'a créé. C'est-à-dire que Astérix leur survivra très longtemps à tous les deux.
Et ensemble, Uderzo et Goscinny avaient aussi créé les studios Idéfix sur le modèle de Walt Disney. Il y a 7 ans, Uderzo, fatigué, avait passé la main à un nouveau duo. Jusqu'à récemment, il supervisait encore chaque page, chaque histoire, acceptant donc que ses héros lui survivent. Ce soir, tout le village gaulois est en deuil.
Merci Mathieu Charrier.
Oui, Albert Uderzo n'en faisait pas mystère, il préférait Obélix à Astérix. Oui. Ouais. Et on a également appris aujourd'hui la disparition à 86 ans d'une légende, le saxophoniste et chanteur franco-camerounais Manu Dibango.
Oui, lui avait été hospitalisé il y a quelques jours en région parisienne après avoir été contaminé par le Covid-19. Ses obsèques auront lieu dans la stricte intimité familiale, bien sûr. Et un hommage lui sera rendu ultérieurement, dès que ce sera possible, c'est ce qu'indique sa famille. Manu Dibango, dont la musique a fait le tour du monde, sa notoriété dépassait très largement les frontières françaises et camerounaises. Auteur notamment, on en écoute un extrait pour le plaisir de Soul Makossa, une musique que lui a même shippé Michael Jackson. Manu bongo que vous allez, j'en suis sûre, réécouter ce soir chez vous. C'est ça aussi le confinement, prendre du temps pour la musique par exemple.
Eh oui, pour écouter le Papy Groove, comme il était surnommé, lui, Manu Dibango. On écoutera avec plaisir. Merci beaucoup Isabelle Millet. On vous retrouve à 18h30 pour un nouveau journal complet depuis chez vous. Et Anissa est chez elle aussi pour nous annoncer quoi. Oui. Bien que le temps demain, une France coupée en deux, c'est ça?
Ouais, c'est ça, c'est un peu le même scénario. C'est vrai que ça fait plusieurs jours qu'on a cette France coupée en deux avec la frontière qui est toujours au même niveau. C'est une frontière qui va de Bordeaux jusqu'à Chambéry. Au nord de cette limite, rien à signaler demain. Encore un ciel dégagé, un soleil qui va briller sans aucun nuage. Dans l'après-midi, attention tout de même sur le Grand Est. Le vent du nord va souffler sur l'Alsace et le territoire de Belfort avec des rafales à 50 km/h. Ce vent du nord, il va faire chuter les températures forcément, mais il n'y a que ça à signaler au nord. Sur la moitié sud, en revanche, en particulier sur les Pyrénées, là, le ciel est très couvert demain matin avec des averses, des chutes de neige à partir de 1000 mètres d'altitude. Et puis dans l'après-midi, c'est sur les Alpes du Sud, la Corse, le littoral méditerranéen, c'est là que les nuages vont se développer pour apporter des averses, du vent du nord en rafale à 80 km/h et puis des nuages très gris et très épais. Du coup, les températures, elles sont en chute libre, des valeurs encore négatives demain matin, moins 4 à Épinal, moins 3 à Clermont-Ferrand et Manosque, moins 1 à Besançon et Rouen, 0 pour Paris, hein, ça baisse assez franchement, hein, 4 à Bordeaux, et puis dans l'après-midi, ça baisse encore, avec 11 à Strasbourg, 13 à Paris, et 16, ça sera la maximale pour Limoges.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invitée dans un instant, Nathalie Lévy.
Il manque des bras pour aider nos agriculteurs. Quelles conséquences pour nous? Y aura-t-il des produits frais demain dans nos rayons? D'ailleurs, les œufs commencent à manquer, hein, précisément. Je vais poser la question au patron de Lidl dans un instant. 1500 magasins en France, 35 000 salariés dans le pays. Michel Biérot est mon invité dans deux minutes. C'est sur Europe 1 au 3921 également. Hashtag Radio Ouverte. Restez avec nous.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 à vos côtés dans cette crise sanitaire jusqu'à 20h avec votre invité à présent Nathalie Lévy. Il dirige 1500 magasins en France, il emploie 35 000 salariés. Alors va-t-on vers une possible pénurie de produits frais en magasin? Vous recevez ce soir Nathalie Michel Biérot, le patron des magasins Lidl.
Bonsoir Michel Biérot.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce soir sur Europe 1. Avant d'évoquer avec vous les stocks et parce que les Français leur sont reconnaissants de répondre présent dans cette crise, comment vont et comment sont protégés aujourd'hui les hôtesses de caisse et autres personnels de Lidl, par exemple, qui installent en rayon vos personnels?
Alors effectivement, il faut le souligner, il faut les saluer parce que ils ont un courage et ils sont présents tous les jours. On a heureusement un taux d'absentéisme qui est très bas aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui notre principal souci et notre principale préoccupation, c'est soutenir, rassurer et encourager nos salariés parce qu'ils sont, comme vous venez de le dire, en première ligne. Et pardon, c'est important de le souligner.
Donc précisément, comment
ils sont présents, ils sont là tous les jours. Alors, on a mis en place beaucoup de choses, bien évidemment du gel hydroalcoolique dans tous les magasins, bien évidemment des gants. On a commencé à avoir quelques masques, mais c'est très très compliqué. Heureusement que le gouvernement a répondu à notre demande pour ôter l'interdiction et la réquisition des masques uniquement pour les centres hospitaliers et les personnels soignants. Donc on va avoir des masques dans les jours qui viennent pour leur donner. Et surtout, on a mis des vitres en plexiglas sur les 11 000 caisses que nous avons à travers la France en l'espace de 48 heures.
Ok. Comment vous nous dites que peu d'absentéisme, combien ont exercé leur droit de retrait néanmoins depuis le début du confinement?
Alors nous n'avons pas eu de demande de droit de retrait à ce jour. Néanmoins, on est à peu près 10-12% d'absentéisme sur l'ensemble des magasins, mais aussi des plateformes logistiques, parce que c'est important. Il y a certes les magasins, mais avant que la marchandise arrive dans les magasins, elle est préparée par des préparateurs de commandes sur les plateformes.
Justement, alors on a vu notamment la semaine dernière des rayons vides, des clients remplir leur caddie frénétiquement. Est-ce que certains produits vont être en rupture de stock très vite? Est-ce que cela va dans ce sens-là? On se souvient du papier toilette la semaine dernière. Là, apparemment, ce sont les œufs qui commencent à manquer à l'appel. Est-ce que vous nous le confirmez? Quels produits?
Alors non, je suis pas du tout alarmiste sur un problème de pénurie. La marchandise est là, nos magasins sont pleins. C'est vrai que la semaine dernière, il y a eu une foule terrible. Il y avait plus de 400-500 personnes parfois devant les magasins qui se sont ruées sur les rayons, notamment de pâtes, d'œufs, de farine et tous les produits de première nécessité. Mais ça, c'est terminé aujourd'hui. Aujourd'hui, on est revenu à quelque chose de normal parce que les gens ont stocké, donc ils sont aujourd'hui sur leur stock. Par contre, les poules vont continuer à pondre, si j'ose dire, oui. Mais ce qui pose problème et là où il faut être vigilant, et c'est ce qu'on dit au gouvernement tous les jours, c'est sur les emballages. Les œufs, ils sont vendus dans des boîtes de 6, de 12, et c'est bien souvent les industriels sur les emballages qui posent problème aujourd'hui et qui ont du mal à approvisionner les industriels ou les producteurs d'œufs, quoi.
Eh oui, alors il y a les industriels, l'emballage, vous le dites, et puis il y a aussi les agriculteurs qui manquent de main d'œuvre aujourd'hui avec le confinement. Comment aider nos exploitants à récolter leur production qui nous nourrissent, hein ? Vous, à votre niveau, en tant que distributeur, comment vous pouvez contribuer à les aider ? Il faut manger des produits frais.
Alors, bien sûr, je vais vous en parler tout de suite, mais Didier Guillaume a lancé un appel ce matin à tous les gens qui aujourd'hui sont en chômage partiel ou qui ne travaillent pas pour les raisons qu'on connaît, d'aller se rendre vers les agriculteurs, parce qu'effectivement, il manque aujourd'hui de plus de 200 000 personnes de saisonniers qui ne sont pas dans les champs pour ramasser les produits de saison. Nous, de notre côté, on s'est engagé, j'étais en ligne encore hier avec Christiane Lambert de la FNSEA. On s'engage à bien évidemment favoriser et privilégier à 100% la production française. D'ailleurs, on va faire une campagne cette semaine dans la presse française pour inciter les consommateurs, et j'en appelle là encore à du bon sens, il faut privilégier les produits français. Cette semaine, la fraise, par exemple la fraise gariguette française ou les asperges, les producteurs sont en grande difficulté, il y a eu un coup de chaud la semaine dernière, la production a explosé, et comme forcément il y a moins de monde aujourd'hui dans nos magasins, ben on commande moins. Et donc il faut vraiment inciter les consommateurs français à manger français et à
privilégier. Oui, mais Michel Biérot, ce sont des produits fragiles qui se gardent peu, et en période de confinement, les Français sont de fait un peu plus frileux pour consommer ces produits-là et pour les acheter et pour les stocker de fait.
Vous avez raison, mais voilà, on peut quand même, on a le droit de se rendre dans les supermarchés pour faire les courses. Donc, plutôt que d'acheter des conserves ou d'autres plats transformés, achetons des asperges, achetons des fraises. Les fraises, c'est plein de vitamines. Je pense qu'on en a tous besoin en ce moment, quoi.
Quid de la prime de 1000 euros, Michel Biérot, de la prime de 1000 euros défiscalisée aux salariés de la grande distribution réclamée par Bruno Le Maire? Cette prime, chez vous, elle est confirmée?
Oui, bien évidemment, elle est confirmée, parce que là encore, alors c'est voilà, il y a plein de choses qui se disent autour de cette prime. Nous, c'est vraiment pour féliciter, pour encourager les salariés qui sont là, présents tous les jours dans nos magasins. Donc, bien évidemment, qu'on suit ce que Bruno Le Maire nous a demandé, bien évidemment.
Donc, vous êtes sur la prime, le montant de 1000 euros.
Alors en fait, on avait, nous, dans les négociations annuelles obligatoires, on avait déjà annoncé une prime de 400 euros. Donc on va tout simplement réévaluer et revaloriser cette prime à 1000 euros le plus vite possible. Il y a bien évidemment les modalités qui sont à définir avec aussi le ministère du Travail pour que les salariés puissent la toucher le plus vite possible.
Vous la garantissez donc ce soir au micro d'Europe 1, cette prime en tout cas. Les soignants depuis hier ont un accès prioritaire pour faire les courses dans vos magasins, parce que évidemment les soignants, on les applaudit aux fenêtres, mais il faut aussi rester chez nous, il faut aussi les protéger, les épargner. Il faut pas qu'ils perdent de temps aux caisses dans les magasins. Est-ce que chez vous, il y a une file prioritaire ou des caisses prioritaires?
Alors, vu l'affluence aujourd'hui dans nos magasins, nous avons tout simplement mis des affiches partout dans les magasins sur les 1500 points de vente, et tous les soignants sont prioritaires dans nos points de vente Lidl sur simple présentation d'une carte professionnelle. Alors, il n'y a pas d'horaire spécifique, que ce soit l'ouverture à 8h30 des magasins jusqu'à 19h, heure de fermeture, et à Paris jusqu'à 20h. Tous les soignants, tout au long de la journée, sont prioritaires chez nous, et c'est affiché pour que tous les consommateurs puissent le voir.
Merci beaucoup Michel Biéro, patron des magasins Lidl, 35 000 salariés, vous nous l'avez dit, 1 500 magasins en France, et il faut consommer des produits français, il faut aider nos agriculteurs avec les fraises ou les asperges, ces produits aujourd'hui qui ne sont plus consommés, il faut acheter ces produits frais pour aider nos agriculteurs. Merci beaucoup de nous avoir répondu ce soir sur Europe 1. Restez avec nous dans un petit instant, votre rendez-vous quotidien avec les grandes voix, bien sûr. Ève Roger, Mickaël Darmon et Emmanuel Duteil sont experts dans leur domaine, société, politique, économie. On a évidemment toutes les questions qui vont bien à leur poser. Ils y répondent à mes côtés, là, tout de suite. Bonsoir les grandes voix.
Vous pouvez réagir vous aussi et poser vos questions aux grandes voix au 3921 ou sur le hashtag Radio Ouverte sur Twitter. Il est 18h30, votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy.
Et le rappel des titres d'Isabelle Millet.
Et les personnes âgées, de plus en plus touchées par le coronavirus. 16 décès enregistrés aujourd'hui à Paris dans un EHPAD du 12e arrondissement. 20 morts dans un établissement des Vosges. 16 dans un EHPAD de Saint-Dizier. 7 victimes également à Sillingy, en Haute-Savoie. Un premier malade a été admis aujourd'hui à l'hôpital militaire de campagne installé à Mulhouse pour soulager les urgences des hôpitaux du Grand Est. Un TGV médicalisé sera lui affrété demain pour la toute première fois afin d'évacuer 30 patients depuis Strasbourg et Mulhouse vers des régions qui sont moins touchées par l'épidémie. Le professeur Didier Raoult claque la porte du conseil scientifique, lui qui a bravé l'opinion majoritaire de ses pairs en proposant un dépistage massif de Covid-19 et un traitement à l'hydrochloroquine. Plusieurs centaines de Marseillais ont encore fait la queue aujourd'hui devant l'institut qui propose ces tests. C'est officiel, les JO de Tokyo qui devaient se dérouler cet été sont reportés. C'est une première entente paix. Ces jeux devront se dérouler au plus tard à l'été 2021. Et puis en Italie, malheureusement, le nombre de morts est reparti à la hausse aujourd'hui. 743 décès en 24 heures après deux jours de baisse.
Isabelle Millet, un nouveau journal complet à 19h. Et du côté du ciel, Anissa, ça donne quoi ?
Eh bien, ça donne toujours demain au nord d'un axe Bordeaux-Chambéry, du très beau temps demain avec un grand soleil sans aucun nuage. Et puis au sud de cet axe, sur les Pyrénées, le littoral méditerranéen et la Corse, des nuages et des averses. Et puis des températures en baisse avec des valeurs négatives demain en début de journée. Une météo détaillée tout à l'heure dans le journal de 19h.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Autour de vous, à distance, Nathalie Lévy, Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1, et Emmanuel Duteil en charge de l'économie à Europe 1. Ils décryptent l'actualité, ils répondent à toutes vos questions. Ça se passe au 3921. Dès maintenant, vous pouvez les appeler et vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir
à tous.
Bienvenue évidemment ce soir encore depuis chez vous. On est content de vous entendre. Vous allez bien, tant mieux. Alors on a entendu, je ne sais pas si vous l'avez écouté, Emmanuel Duteil à l'instant, le patron de Lidl, Michel Biéro, qui nous disait bah oui, on manque encore de masques pour nos hôtesses de caisse, pour le personnel qui met en rayon, pour tous les personnels finalement hein, de ces supermarchés, de ces hyper, grâce auxquels on peut s'alimenter, on peut se ravitailler encore quotidiennement. Il nous dit qu'il n'y a pas de pénurie a priori sur les œufs. On lit par ailleurs quand même qu'il y a des grosses difficultés pour les agriculteurs. Il va falloir les aider vite, vite et bien.
Oui, alors effectivement, il y a deux choses dans ce que vous dites, Nathalie. Il a raison, hein, Michel Biéro, quand il dit que pour le moment, il n'y a pas de pénurie. C'est vrai qu'au moment même où vous lui posez la question, il n'y a pas de pénurie. Il y a des manques de certains produits à cause d'une surconsommation de ces produits. C'est le cas par exemple pour les œufs, mais on l'avait connu et c'est vrai que personne n'est encore capable de comprendre pourquoi, mais on l'avait compris sur le papier toilette. Il y a de cela quelques jours. Sauf que ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas de pénurie aujourd'hui, qu'il n'y en aura pas demain. Et c'est là le très très gros problème. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, mais appelé l'armée de l'ombre, donc autrement dit ceux qui sont au chômage partiel, à aller dans les champs aider les agriculteurs à produire, à semer. Ouais. Parce que c'est là le problème. C'est en ce moment que sur certains produits, les fraises, les asperges, ce genre de choses, si on n'est pas en train soit de les ramasser, soit de les semer aujourd'hui, eh ben on n'en aura pas demain. Donc il y a quand même un doute, et c'est pas du tout pour faire peur à nos auditeurs, n'allez surtout pas surstocker, n'allez surtout pas faire vos courses en écoutant en ce moment même Europe 1, mais il peut y avoir de façon sporadique dans les semaines à venir effectivement quelques problèmes d'alimentation dans les magasins, principalement parce qu'on manque de main d'œuvre du côté de l'agriculture et notamment de main d'œuvre étrangère, puisqu'il y en a quand même une partie qui vient aider chaque année pour faire les saisons. Mais également, vous savez, vous devez tous en connaître autour de vous, ces gens qui, pour un petit complément de revenus, soit parce qu'ils sont sans emploi à ce moment-là, soit parce qu'ils sont à la retraite, vont aider dans les champs. Bah là, notamment, les retraités, on va pas conseiller à quelqu'un qui a 70 ans d'aller faire un petit tour dans les champs et d'être confronté à d'autres gens autour de lui. C'est bien évidemment beaucoup trop risqué.
Évidemment. Ève Roger, l'information du jour, enfin une des informations du jour, c'est que le professeur Didier Raoult, fameux professeur qui nous parle de chloroquine depuis des jours déjà, et qui fait clairement pas l'unanimité, disons-le tel que c'est, ne participera pas aux prochaines réunions du conseil scientifique dont il faisait partie.
Et oui, il faut bien qu'on en parle tous les jours parce que je peux déjà vous dire qu'il va sortir un livre d'ici la fin de la semaine, donc on va encore entendre parler de lui. Et puis on va entendre parler de lui au moment des résultats des essais cliniques, donc d'ici 15 jours.
Sûr.
Bref, sur ce conseil scientifique, en fait, il en faisait partie sans en faire partie déjà. Il avait une sorte de strapontin, puisque quand ce conseil scientifique nous a été présenté, il n'était pas exactement dans la liste. Il avait un strapontin parce que justement, il était consultant un peu sur la chloroquine, puisque justement le conseil scientifique se penchait là-dessus. Donc quand il dit il claque la porte, ça veut dire que dans les feuilles de présence, il a toujours été excusé. Donc la porte, il l'a jamais ouverte d'une certaine façon. Mais je pense qu'il veut marquer par là son désaccord à ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire qu'à la fois le conseil scientifique doit le regarder comme ça un peu de travers avec parce qu'il a enfreint d'une certaine façon les règles de la science scientifique et puis lui il se dit de toute façon il doit tracer son chemin tout seul et puis on verra bien d'ici quelques semaines qui avait raison.
Oui, évidemment. Alors Michaël Darmon pour la politique avec vous parce que vous êtes notre éditorialiste politique, on est à la veille du Conseil des ministres demain mercredi, il sera évidemment et essentiellement consacré aux questions économiques parce que on est, et Bruno Le Maire l'a dit, dans une comparaison avec la crise de 29. Désormais, on va y revenir dans un petit instant. Le Sénat, de fait, a adopté d'ores et déjà l'installation d'un comité de suivi, c'est ça, des mesures qui seront mises en place. C'est-à-dire, éclairez-nous.
En fait, il y a une mise sous surveillance de l'exécutif par le Sénat, par la droite, qui a réussi à récupérer un amendement qui consiste, au fond, à créer ce comité de suivi pour contrôler et surveiller.
Donc le Sénat va contrôler le gouvernement.
Exactement. Gérard Larcher l'a fait savoir en ce sens. Il a dit qu'il sera très attentif à la manière dont effectivement ce plan de relance, cette économie de guerre va se mettre en place et comment le gouvernement mettra en place les mesures de sauvetage de l'économie. On sait que demain, effectivement, il y a un conseil des ministres très important à ce niveau-là. 24 mesures seront présentées. Il y a cette mise sous surveillance par l'opposition en particulier. Donc ça veut dire que derrière l'unité nationale, le travail continue. C'est la guerre politique qui ne se relâche pas. Il y a également la mise sous surveillance de l'opinion. Ce soir, le sondage donc réalisé par BVA, Orange et nous sommes partenaires, montre bien qu'il y a une défiance qui continue à s'inscrire, à s'installer sur la manière dont le gouvernement gère cette crise. Donc l'opinion qui a à la fois subi bien sûr les décisions gouvernementales regarde et critique et reste extrêmement vigilant à l'égard de la manière dont les pouvoirs publics gèrent cette épidémie. Je voulais juste rebondir quelques instants sur ce qu'a dit tout à l'heure, à l'instant plutôt, Ève Roger, par rapport à ce qui arrive effectivement à Didier Raoult et le fait qu'il s'inscrit maintenant comme un personnage emblématique. En réalité, au-delà des discussions bien sûr scientifiques, cette rébellion marseillaise s'inscrit en fait dans une longue histoire nationale de la tradition, de la fronde permanente de Marseille contre l'État central. Et Raoult, en fait, il incarne aujourd'hui, il cristallise cette tradition. Lui-même s'est construit personnellement dans son parcours en marge des institutions. Il a fait beaucoup de choses en candidat libre, il s'est engagé dans la marine, il a passé son bac, il a fait des études brillantes et à chaque fois il a été en rébellion contre l'institution. Il a un franc-parler très très local quand il dit voilà, ils devraient tous revenir à leur manuel de médecine, moi je suis pas outsider, je suis plutôt en avance, et en fait au fond se réécrit avec lui aussi une page de notre roman national. nationale, c'est-à-dire cette ville rebelle et modèle à la fois. Marseille, c'est la ville rebelle, mais qui est en même temps le nom de l'hymne national. Donc c'est, ouais. c'est ce paradoxe marseillais qui se, je trouve, assez frappant de voir qu'il se redessine et revitalise avec la saga du professeur Didier Raoult, dont on verra comment elle s'terminera.
Comment elle se...
De ce point de vue-là, ouais. je suis pas compétent pour le dire.
On va y revenir évidemment parce que c'est vrai que c'est un feuilleton avec Didier Raoult, on va pas se mentir, chaque jour des nouveautés et le livre, vous nous le disiez, Ève Roger, en fin de semaine. Emmanuel Dutheil, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a été très clair. Aujourd'hui, il juge la crise du coronavirus comparable à celle de la Grande Dépression de 1929. Rien que ça, on est dans une comparaison excessive aujourd'hui ou on est vraiment dans une réalité?
Il faut quand même vraiment souhaiter que cette comparaison soit excessive parce que sinon on va quasiment tous partir à la soupe populaire. C'était vraiment, je trouve que cette image est assez impressionnante puisque
impressionnante,
la crise de 29 avait été un effondrement du système à tout niveau. Donc ce qu'il veut dire par là le ministre, c'est qu'on est dans une crise plus grave que ce qu'on avait imaginé. Parce que c'est vrai que jusqu'à il y a encore très récemment, on savait qu'on vivait un choc considérable, mais il y avait une idée qui se propageait de se dire, bon bah dès que c'est fini, on va dire dans 2-3 mois, hop, ça repart. Sauf que là, c'est tellement en train d'abîmer des pans entiers de l'économie. Je prends souvent l'exemple des compagnies aériennes, mais parce que je trouve que c'est l'exemple le plus frappant. Quand vous n'avez plus aucun vol pendant plusieurs mois, et surtout que vous n'avez plus aucune réservation, quasiment en ce moment, qui va prendre un vol même pour ses grandes vacances? Parce que tout le monde va se dire, bah, si ça se poursuit, si je peux pas partir, si ceci, cela, si je choisis un pays dans lequel pile le corona arrive, ça va être impossible. Donc notre économie va être extrêmement abîmé, ça va être extrêmement dur de repartir, et puis derrière, les finances publiques des États vont être dans un état, c'est le moment de dire, dans un état désastreux. C'est-à-dire qu'en ce moment, on déverse des milliards d'euros pour essayer de soutenir un tant soit peu notre économie, mais on va terminer avec une récession considérable de sûrement plusieurs points sur l'année 2020, avec un déficit qui va exploser, avec une dette qui va passer allègrement les 100%, et ça, il va bien falloir le payer un jour. Donc, la machine va avoir du mal à tout niveau à rebondir.
Et les banques, de toute façon, les grandes banques commencent à avoir ce même type de comparaison, une comparaison qui émerge dans plusieurs banques internationales, donc excessive peut-être, mais en tout cas, ça fait effectivement le tour du monde, ce type de comparaison avec 1929.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la crise de 29 avait marqué la fin d'une époque, avait été obligé de repenser le système financier, avait été obligé de repenser enfin un peu mieux la redistribution de la richesse. Et là, c'est peut-être en ça aussi où cette crise est très symbolique, c'est-à-dire qu'elle va forcer à imaginer un nouveau modèle de consommation, un nouveau modèle de où on fabrique, etc., etc. Et donc, c'est peut-être aussi cette image-là que le ministre de l'économie a voulu usiter ce matin.
Ouais. Anissa, une petite question, je crois, pour vous sur Twitter, Anissa.
Oui, c'est une question pour Ève Roger avec le hashtag Radio Ouverte. Alors, c'est des propositions d'auditeurs pour essayer de faire des économies de masques. Il y a Marc qui nous dit pourquoi ne pas tout simplement donner un masque à tous les Français, à chacun, en demandant d'insérer entre le visage et le masque un mouchoir en papier que l'on changerait toutes les 3 heures. Cela prolongerait indéfiniment la durée de vie d'un masque.
Alors, je suis pas la grande spécialiste, mais il y a d'abord une chose, je crois qu'on est à 67 millions de Français, je crois qu'on est bien loin d'avoir 67 millions de...
6 millions de masques.
Enfin, si, alors on a un stock stratégique de 86 millions, a dit le ministre de la Santé récemment. Mais je crois avoir entendu dire que ça pouvait pas marcher comme ça, parce que ça serait beaucoup trop facile, et que le masque, à partir du moment où vous l'ouvrez, il s'use et qu'on peut pas l'utiliser comme ça. Mais en revanche, si je peux dire quelque chose sur les masques qu'on fait artisanalement, on sait que ça ne protège pas du virus, mais j'ai réalisé l'autre jour que si on mettait un masque en tissu, ça permet au moins de pas passer son temps à toucher son nez et sa bouche avec ses mains. Et ça, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on se contamine. Donc si quelqu'un vous éternue dessus, ça vous protégera pas, mais ça vous protégera de vos propres mains et de vos gestes machinaux qui consistent à se toucher le visage 60 fois par minute, je crois.
Ouais. Bien. C'est sûr. Alors on va se retrouver dans un petit instant, les grandes voix. Ève Roger, je vous ai un peu challengé hier sur la sortie du confinement à Wuhan, en Corée et en France. Comment cela peut-il se passer? Est-ce qu'il faudra sortir, je sais pas, certains quartiers d'abord, certaines régions d'abord, on verra. Mais voilà, je pense que vous avez bossé le dossier et vous allez me répondre dans un petit instant. Ève Roger, Mickaël Darmon, Emmanuel Dutheil, les grandes voix. À tout de suite.
Vous
Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. Un grand journal qui se poursuit avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Avec autour de vous et à distance Nathalie Lévy, Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, et Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1.
Et Emmanuel Duteil, j'ai une question pour vous ce soir. Qu'est-ce que le TGV médicalisé qui va évacuer une trentaine de patients, hein ? On a commencé à avoir l'information. Le ministre de la Santé a annoncé des patients allaient être évacués vers des territoires moins engorgés grâce à ce TGV sanitaire, c'est ça ?
Oui, c'est un TGV qui est prévu pour ça, hein, qui était en gare en attendant. Vous savez, un petit peu comme finalement l'hôpital de campagne oui. de l'armée. Bah, c'est un petit peu la même logique. On met une trentaine de malades dans ce TGV qui est donc prévu de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact entre les différents malades. Il a à l'intérieur tout ce qui est nécessaire pour transporter dans de bonnes conditions. L'idée, c'est d'avoir le plus de matériel disponible pour pouvoir transporter d'une région à l'autre, puisque là je veux pas prendre le travail d'Ève Roger, parce qu'elle le fait mille fois mieux que moi, mais l'idée c'est de pouvoir désengorger le plus possible les zones dans lesquelles il y a énormément de malades, vers des régions où la vague n'est pas encore arrivée. On sait que dans le sud-est et dans le sud-ouest, c'est pour le moment, et croisons les doigts, moins impacté. Donc voilà, l'idée, c'est d'utiliser toutes les forces qui sont à disposition. Et on l'a pas créé pour cet événement, hein. Il était déjà prêt. Cette éventualité avait déjà été travaillée en perspective d'événements dramatiques, genre attentats, ou là, ce qu'on est en train de vivre.
C'est quand même une première en Europe, il faut quand même le signaler, avec un espace médical à la place du wagon bar précisément, et ce dispositif donc qui permet d'aller de déplacements interrégions en fait pour ces malades. On l'a compris, donc pour désengorger.
C'est des premières en la matière, hein. C'est-à-dire que exactement. Tout ce qui a été préparé ou imaginé est plus ou moins mis en place, mais on le répète beaucoup, hein, mais depuis la grippe espagnole, on n'a jamais connu un tel événement. Et au moment de la grippe espagnole, dans tous les cas, on n'avait pas autant de moyens techniques. Et a priori, on n'avait pas de TGV encore. Donc tout ça est évidemment une première qu'on est en train de mettre en place.
Ève Roger, hier, on se posait la question de...
Alors, il faut que je vous rende ma copie,
Oh, comme vous y allez.
La levée du confinement. Mais...
La levée du confinement. Comment ça peut se passer? Évidemment, on en est loin, hein. On va pas,
J'ai retrouvé une déclaration de Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, qui dit, dans 30 à 40 jours, l'étau va se desserrer. Donc, 30 à 40 jours, ça nous emmène toujours à la même date, c'est-à-dire la fin du mois d'avril, déjà. Ouais. 4 à 6 semaines. Et, effectivement, vous disiez tout à l'heure...
Là, excusez-moi, je vous interromps juste un instant, mais là, à l'instant, le Conseil scientifique recommande 6 semaines minimum de confinement en France. Hein, voilà.
Donc, heureusement, il ne m'a pas contredit.
Voilà.
On y est, 26 semaines. Donc, je continue avec les propositions du professeur Delfraissy. Et là, il nous dit, l'important, et c'est ce qui se passe à Wuhan en ce moment, c'est-à-dire, ceux qui vont sortir, il faut qu'ils soient plutôt des personnes, comme on dit, saines, qui ne soient pas malades. Et comment on va savoir que les personnes qui sortent dans la rue ne sont pas malades? Tout le problème est là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui, le président Emmanuel Macron a nommé un nouveau comité, un conseil qui s'appelle le comité analyse, recherche, expertise. C'est-à-dire, c'est sur le même modèle que le conseil scientifique, avec des scientifiques, des chercheurs. Il y a même plusieurs qui sont déjà dans les deux conseils. Il leur demande de regarder les traitements, les médicaments, ok. Mais après, il y a une phrase qui est incompréhensible si vous savez pas de quoi il parle. En fait, il leur demande de travailler sur comment on va travailler avec les données personnelles de chacun pour savoir est-ce qu'on va pouvoir instaurer en France un système qui ressemble soit à celui de la Corée du Sud, soit à celui de la Chine, évidemment, où où le principe, ça sera de nous tracer avec notre téléphone portable. Parce qu'aujourd'hui, à Wuhan, on a un téléphone portable, on sort, il faut que vous ayez un QR vert qui est envoyé par les autorités qui dit, vous êtes sain, vous pouvez sortir. Alors on en est loin, évidemment. Ouais. La France n'est pas la Chine n'est pas la France, mais il y a quand même cette idée qu'on réfléchit à comment préserver notre liberté individuelle tout en pouvant sortir, en étant porteur pas malade et ne pas relancer l'épidémie à la sortie du confinement. Alors ça, c'est vrai, c'est une réflexion éthique, c'est une réflexion, j'allais dire technologique, c'est-à-dire que je ne peux pas vous dire, je n'ai pas trouvé la réponse. Il y aura pas en bas de chaque immeuble des gens qui vont venir vous tester. en vous dire c'est bon, vous pouvez sortir. Vous êtes malade en Chine, vous êtes malade, mais on vous met dans un gymnase avec d'autres personnes malades. Vous rentrez même pas chez vous. C'est-à-dire que vous êtes dans un endroit de quarantaine avec d'autres malades. Donc ça, c'est évidemment pas possible en France. Mais il va falloir qu'on trouve à la fois des tests, parce que ça, on y revient toujours. Est-ce que dans 30 à 40 jours, on aura suffisamment de tests pour que les personnes qui ont des symptômes encore puissent se faire tester? On a encore des problèmes. Je sais pas si vous avez vu aussi, on a des problèmes des kits de prélèvement. Pareil, on se retrouve en pénurie. Il n'y a pas de sérum pour les tests. Et là, il va en falloir, en Corée, ils en ont fait 400 000. 400 000, il faudrait au moins 400, 500, 800 000 tests pour pouvoir sortir du confinement. Parce que le risque.
8 000 par jour.
Voilà. Aujourd'hui, on en a entre 5 et 8 000. Parce que effectivement, le risque, c'est vous sortez du confinement, le virus se balade, et puis paf, ça repart, et puis nous voilà pour la deuxième vague. Voilà.
On est avec un auditeur, Jean-Christophe de Brest. Bonsoir, Jean-Christophe.
Oui, bonsoir, Nathalie. Bonsoir à tous. Oui, moi, j'appelais pour une réflexion au sujet du sport. Parce que je trouve que finalement, ils ont assoupli, au lieu de durcir les choses, ils l'ont assoupli.
Le confinement,
parce que,
c'est-à-dire
ils l'ont assoupli en disant aux gens, vous avez droit à une sortie par jour d'une heure dans un rayon d'un kilomètre.
D'un kilomètre.
Donc moi, je reprends mes cours de CM2, un kilomètre, on fait la circonférence, 2 pi r, ça fait 6 km 28 de circonférence. Ça veut dire que quelqu'un qui fait de la course à pied va courir 10, 12, 15, 17 kilomètres en fonction de sa vitesse en une heure. Donc ça veut dire que les gens, ils vont se sentir libres, ils vont se dire, c'est bien, je peux faire un circuit autour de chez moi de 6 km 28, je suis toujours dans un rayon d'un kilomètre de chez moi, et donc je peux courir 10, 12, 15, 17 kilomètres heure.
Vous voulez dire qu'en fait, en précisant, le kilométrage et etc., finalement, c'était contre-productif. Ève Roger.
Oui, alors, je suis assez d'accord avec notre auditeur. C'est vrai que moi aussi, j'ai trouvé que finalement, on a plus de liberté. Et même, on a le droit d'aller se balader. Je sais pas si vous avez vu ça. On peut se balader en famille pendant une heure dans un rayon d'un kilomètre. Alors, ce que je crois qu'ils ont cherché à empêcher, c'est que les gens quittent chez eux et partent à la plage. Beaucoup plus loin. C'est-à-dire, c'est vraiment en restant dans le périmètre autour de chez soi, au fond, on prend moins de risques, on croise peut-être moins de monde, ou en tout cas, on ne va pas s'agglutiner aux endroits où tout le monde a envie d'aller. Et je pense que c'est comme ça qu'on évite de provoquer des rassemblements. Donc effectivement, on a plus de liberté pour courir, et ça, si vous le faites, je vous félicite.
Mais quand même. Et Jean-Christophe nous appelait de Brest. Merci à vous, restez confinés. Évidemment, restez chez vous et merci de votre appel. N'hésitez pas à revenir un autre soir sur notre antenne. Michael Darmon, c'est là où je m'interroge. C'est vrai, comme Jean-Christophe et comme certainement des centaines d'auditeurs, voire des milliers, sur la manière dont les choses sont présentées depuis le début du confinement, de manière finalement parfois un peu nébuleuse, que ce soit dans la bouche du président de la République, ensuite Christophe Castaner, la semaine dernière par Édouard Philippe. Oui, les Français sont dubitatifs devant certaines expressions, certaines formulations.
Oui, c'est vrai, parce qu'en fait le pouvoir public aussi a décidé d'être adossé, on l'a dit suffisamment, on l'a encore évoqué tout à l'heure, au monde scientifique, et le monde scientifique, par définition, il est dans le doute, il s'adapte, il accepte par principe que les choses vont être sans arrêt évolutives. Or le pouvoir politique est quand même celui qui décide. Ce qui est frappant quand même aujourd'hui avec l'installation qu'on vient d'évoquer d'un deuxième conseil scientifique, c'est qu'on a l'impression qu'il y a pratiquement maintenant un méta-gouvernement à côté du gouvernement et du pouvoir exécutif classique du président de la République. Il y a maintenant ces politiques qui conseillent, qui préconisent, mais il faut bien savoir, ils ne décident pas, sauf que ils avancent avec leur propre méthodologie, c'est-à-dire en disant on sait pas, on avance, on est surpris. Hier l'Italie c'était en baisse les nombres de décès, aujourd'hui c'est reparti à la hausse, donc on voit bien que les choses sont sans arrêt évolutives. Je pense que Emmanuel Macron fait également cela, il s'entoure également en permanence de ces experts, parce que au fond, et pour peut-être sans être vraiment esprit chagrin, mais enfin en regardant aussi les choses de manière un peu piquante, il veut aussi pallier une forme de solitude. C'est quand même aussi la résultante d'une forme de difficulté dans sa propre majorité à voir les capteurs, à savoir ce qui se passe vraiment dans le pays. On l'a dit suffisamment longtemps, suffisamment dans maintes occasions, il y a très longtemps déjà, depuis le début du mandat.
mandat. Et il a compris qu'avec cette circonstance-là, il n'était pas question d'être dans l'à peu près. Or, souvenez-vous, hein, il avait même dit à sa majorité, soyez fiers d'être des amateurs. Ce sont pas des gens qui sont toujours très ancrés avec les réalités. Et là, il a besoin de ne jamais, en tout cas, se tromper sur les données qu'on lui donne pour l'aide à la prise de décision. Et juste après, pour terminer, pour rebondir, parce que ce que disait Eve tout à l'heure était vraiment très intéressant par rapport à l'enjeu du dépistage et du traçage de nos données personnelles. Au fond, ce que l'on voit aussi avec cette histoire, c'est un peu un nouveau clivage des pays dictatures face aux démocraties. Comment une dictature gère cette crise face à une démocratie qui gère la même crise? Et là, on voit bien, on a tendance souvent à dire depuis quelques jours, oh, regardez en Chine, regardez comment ils ont fait. Mais la Chine, on le dit suffisamment, ça n'est pas un pays démocratique. Ils décident d'enfermer les gens quand ils veulent et les gens obéissent.
Juste un mot, Mickaël, rapidement, s'il vous plaît. Juste un mot, parce que je vous ai pas fait réagir au sondage. Les doutes, sur la façon dont le gouvernement gère la crise, qui s'accentue dans la population. C'est donc, le sondage qu'on répercutait tout à l'heure. 37% seulement des Français se déclarent confiants. C'est moins 4 points depuis hier. Et moins 18 points depuis le début de notre suivi. Ça va décrescendo et à une allure folle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que...
Ben, ça installe le règlement de compte pour l'après, C'est-à-dire que quand les Français seront en situation, via des commissions d'enquête, via la fin, après la fin du confinement, de venir dire mais que s'est-il passé, ça va être sévère, parce que ça sera cristallisé à travers évidemment l'affaire des masques. Ça, c'est évident. On voit aujourd'hui que les agriculteurs sont
en colère. Les tests également.
Les tests, les masques, la méthodologie. A-t-on choisi la bonne méthode? Toutes ces questions qui sont déjà, qui sont forcément légitimes, dont le gouvernement a déjà compris qu'elles seront posées, puisqu'il n'y avait aucun membre du gouvernement qui conteste le fait qu'il y aura une commission d'enquête. Ça, c'est assez frappant de l'entendre. Donc, il y aura un après. Et bien évidemment, la façon aussi dont Bruno Le Maire a évoqué la crise de 29, comme le disait très justement tout à l'heure Emmanuel, ça a débouché sur le New Deal, comme on dit, c'est-à-dire une manière totalement nouvelle, avec une forte implication de l'État pour pouvoir reconstruire ensuite après la crise de 29 aux USA à l'époque. C'est le message sous-jacent. L'après va être très difficile.
Il nous reste très peu de temps. Je voudrais finir sur une note à peu près positive. Emmanuel Dutheil, en 10 secondes, est-ce que vous savez déjà sur le plan économique où en est l'Italie à ce stade? Et sinon, je vous laisse réfléchir et je donne la main à Ève Roger pour qu'elle me dise quoi. Que ce soir, on entrevoit peut-être une lumière au bout du tunnel en Italie chez nos voisins.
On a une énorme déception là. Il y a un quart d'heure, j'étais prête à vous dire espoir. Et à nouveau, les chiffres
sont repartis à la hausse. Moi aussi, c'est toutes les infos que j'avais.
Voilà, c'est reparti à la hausse assez fortement d'ailleurs, en nombre de morts. On était à 600, on est repassé à 740, je crois, ou 750. Donc c'est encore la preuve que c'est tellement inattendu cette épidémie.
Oui, pourtant baisse consécutive du nombre de morts.
On était au 13e, 14e jour et c'est à peu près le jour où on va commencer à regarder si les chiffres commencent à baisser.
Oui, si le confinement commence à faire effet.
14 jours du confinement, voilà, c'est ça. Mais alors, on ne sait pas, peut-être, enfin, de toute façon, un jour, ça va bien finir par... Ça a marché à Wuhan, ça a marché en Corée du Sud, dans le Roubaix, ça a marché. Ça... Gardons espoir, je ne sais pas, comme Emmanuel Dutheil, catastrophiste comme ça, nous dire que c'est presque la fin du monde.
Emmanuel Dutheil,
moi, je ne vais pas vous dire que c'est la fin du monde, mais je vais vous dire que quand même, pour la croissance italienne, c'est effectivement une catastrophe. Si je vous donnais si je vous donnais un chiffre là maintenant, je serais un menteur, puisque on n'en a strictement aucune idée. Ce qui est certain, c'est que le tissu économique, c'est complètement... arrêté, même si on a vu que la production, même sur le non alimentaire, avait bizarrement plutôt résisté. Mais là, vous avez dû le voir, il y a quelques jours, l'Italie a décidé d'arrêter également sa production non essentielle. Donc là, on est sur un pays qui est grosso modo complètement à l'arrêt. Et tout à l'heure, je vous dressais un tableau un petit peu compliqué de la France. Bon, l'Italie, c'est bien pire que nous. Ils avaient déjà bien plus de dettes que nous. Rien ne fonctionnait déjà d'un point de vue économique dans le pays, si je caricature. Donc là, ils vont avoir un mal certain à s'en sortir. Mais peut-être pour mieux rebondir, si je dois faire plaisir à Eve pour rester positif.
Merci.
Et pour être précis, les grandes voix, on est à 743 morts aujourd'hui. Voilà. Effectivement, les chiffres sont tombés là, il y a quelques minutes. Pourtant, hier, on a enregistré une deuxième baisse consécutive. Donc, pas de quoi du tout se réjouir. En Italie, on regarde cette situation de près comme la nôtre, avec le Conseil scientifique, précisément là en France, qui juge indispensable, je vous le disais il y a quelques instants, de prolonger ce confinement qui durera vraisemblablement au moins 6 semaines à compter de sa mise en en place. Donc voilà pour les dernières informations qu'on pouvait vous donner ce soir et que les grandes voix commentaient et vous explicitaient. Merci beaucoup Ève Roger, Emmanuel Dutheil, Mickaël Darmon. Merci bon les grandes voix. J'ai hâte d'être demain pour vous retrouver. Merci à tous.
Nous aussi.
Ah oui. Et oui. Vous voyez, il y a des trucs comme ça inattendus. Merci. Non, merci à vous. Merci beaucoup. L'info qui se poursuit dans un instant avec le journal complet d'Isabelle Millet.
Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Il y a aujourd'hui moins d'une dizaine d'établissements sur 10 000 qui sont concernés. Cela représente bien peu par rapport au nombre d'établissements. Et donc, il y aura sans doute à craindre encore des décès.
Nos aînés en première ligne dans cette crise du coronavirus. Les décès se multiplient dans les EHPAD. Inquiétude pour l'avenir.
Et ce soir, le Conseil scientifique recommande un confinement de 6 semaines minimum. C'est indispensable, dit-il. Il estime aussi qu'un renforcement de ce confinement est nécessaire.
Pourquoi ne fait-on pas davantage appel aux cliniques privées alors que les hôpitaux publics sont surchargés? On posera la question dans ce journal au docteur Jimmy Mohamed. On sera en Espagne, deuxième pays d'Europe le plus touché après l'Italie. La situation sur place est dramatique. En France, le calendrier des examens et des concours de l'enseignement supérieur qui devait se tenir dans les prochaines semaines est complètement bouleversé. On verra ça avec Virginie Salmen. Et puis le réalisateur Laurent Tirard rendra hommage au dessinateur Albert Uderzo, l'un des papas d'Astérix qui est décédé aujourd'hui.
Et Anissa, du côté du ciel, du gris dans le sud, hein.
Oui, effectivement, demain, nous aurons encore des nuages dans le quart sud-est, des nuages qui nous apporteront des averses et même des flocons sur les reliefs. Partout ailleurs, c'est du grand et beau soleil. Les températures sont en chute libre. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et le journal, c'est avec Nathalie Lévy et Isabelle Millet.
Et les personnes âgées sont particulièrement fragiles et sensibles au coronavirus. On le sait et on le dit depuis le début de cette épidémie. Mais malgré toutes les mesures de précaution, les décès se multiplient ces derniers jours dans les maisons de retraite. Dernier en date à Paris, 16 résidents d'un EHPAD du 12e arrondissement qui viennent s'ajouter à d'autres en Haute-Marne, dans les Vosges ou encore en Haute-Savoie. La situation devient critique. Néanmoins, pour Pascal Chanvert, le président de l'association des directeurs auprès des personnes âgées, le pire est sans doute à venir.
Je pense qu'on n'est pas encore aujourd'hui dans le pic le plus élevé, je le pense. Il y a aujourd'hui moins d'une dizaine d'établissements sur 10 000 qui sont concernés. Cela représente bien peu par rapport au nombre d'établissements. Et donc, il y aura sans doute à craindre encore des décès. Et n'oublions pas toutes les personnes qui vivent à leur domicile, en sachant que certaines d'entre elles, quand elles sont fragilisées, pourront être atteintes par ce virus et en mourir.
La question n'est pas de savoir si on est inquiet, si on est optimiste ou négatif. La question, c'est de savoir si on est mobilisé. Et dans les établissements comme dans les services à domicile, on est mobilisé. Mais malheureusement, il n'y a pas de risque zéro. Il y a des établissements, on le voit déjà, où le virus est présent, où il y a des décès. Et malheureusement, il y en aura d'autres.
Pascal Chanvert, le président de l'association des directeurs auprès des personnes âgées, joint ce soir pour Europe 1 par Élise Dangean. On vous le disait, le conseil scientifique recommande ce soir un confinement de 6 semaines minimum. C'est indispensable, dit-il, et il estime nécessaire par ailleurs un durcissement de ce confinement. Notez que l'hôpital militaire installé à Mulhouse a pu enfin accueillir aujourd'hui son premier patient en réanimation. Et puis il est avec nous, comme tous les jours. Bonsoir docteur Jimmy Mohamed.
Bonsoir Isabelle.
Les auditeurs d'Europe 1 continuent à vous interroger, bien sûr, sur Twitter via le hashtag Radio Ouverte ou bien sur le 3921. Et il y a une question qui revient régulièrement ces dernières heures. Pourquoi l'État ne réquisitionne-t-il pas les cliniques privées pour aider les hôpitaux publics, alors même que plusieurs d'entre elles, ont proposé leurs services? Est-ce que finalement, ça ne serait pas la solution?
Alors pour l'instant, la seule solution, c'est le confinement et les cliniques n'ont pas besoin d'être réquisitionnées car elles jouent le jeu. Elles absorbent des malades du public, notamment lorsqu'il y a des soins programmés à faire. Donc elles vont faire du malade non coronavirus. Et puis certaines cliniques, le problème, c'est qu'elles ne sont pas aussi formées en termes de réanimation que dans les grands centres. J'ai un collègue à Amiens qui m'explique que aux alentours, dans les cliniques privées, ils ont formé les médecins à de la réanimation poussée pour qu'ils puissent absorber les malades en cas de flux débordant. Et donc le réquisitionnement n'est pas nécessaire. En revanche, Olivier Véran a annoncé qu'il y aura des TGV qui va permettre d'acheminer des malades du Grand Est vers des zones moins denses. La solution est là, une forme de partenariat. La réquisition est un bien grand mot. Je pense que la collaboration est plutôt ce qu'on doit retenir.
Merci docteur Jimmy Mohamed, que l'on retrouve tous les jours dans Sans Rendez-vous, l'émission santé de Mélanie Gomez, tous les jours sur Europe 1 à 15h. Et puis vous le disiez, pour continuer à lutter contre l'engorgement des hôpitaux du Grand Est, 30 nouveaux malades seront transférés demain dans d'autres régions à l'aide de ce TGV médicalisé.
Isabelle, si vous m'entendez, je suis là. La pandémie a par ailleurs eu raison des Jeux Olympiques 2020, hein.
On vous entend très bien, Nathalie. Effectivement, les JO sont reportés au plus tard à l'été 2021. Ce sera toujours à Tokyo, toujours au Japon. Donc, une décision saluée par de nombreux athlètes, à l'image du judoka Teddy Riner, qui comprend cette décision.
Je m'étais préparé pour cet été, mais la priorité, c'est plus de rester en vie, c'est plus d'éradiquer ce virus qui est mortel pour l'humanité. Donc un an, ça peut paraître long, mais ça va passer vite. Donc déjà, c'est de sortir de cette situation. Et puis après, voilà, quand on aura l'occasion de pouvoir remettre les bouchées doubles, eh ben on remettra les bouchées doubles. Mais voilà, bon, forcément, c'est chiant, mais c'est comme ça. Et je préfère être encore en vie pour mes enfants que risquer ma vie et ne plus être là pour eux.
Est-ce que ça change quelque chose dans votre envie d'aller quand même à Tokyo dans un an?
Non, du tout. Ça change rien du tout. Ça sera toujours les mêmes Jeux Olympiques, juste décalés. Et franchement, ça me laisse encore plus de temps pour mieux me préparer. Pas que j'étais pas préparé, mais voilà. Un an, ça laisse le temps.
Voilà, Teddy Riner qui voit le bon côté des choses. Hein. Joint ce soir pour Europe 1 par Corinne Boulot, débute maintenant bien sûr le casse-tête de l'organisation de ce report, notamment l'ajustement des calendriers avec de nombreuses autres compétitions dans le monde entier. La prime de 1000 euros défiscalisée que les entreprises peuvent verser à leurs salariés mobilisés pendant la crise du coronavirus, eh bien cette prime ne sera plus soumise à un accord d'intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Économie. Et puis autre décision qui a été annoncée aujourd'hui, les ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ont décidé de réviser le calendrier ainsi que les modalités d'organisation des concours nationaux qui étaient prévus théoriquement au printemps, Virginie Salmen.
Oui, d'abord, il y a les concours reportés, ceux qui devaient se tenir au mois d'avril et mai. Ça concerne les élèves des classes prépa qui postulent à HEC, l'ESSEC, Centrale ou Polytechnique pour les ingénieurs. Les écrits sont reportés à des dates qui ne sont pas connues pour l'instant. Ce sera probablement à partir de fin mai, au plus tôt en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Report également des concours de recrutement de l'enseignement national pour ceux qui veulent devenir prof et qui devaient s'achever fin mars. Ils auront lieu entre juin et juillet. Le ministère fera des annonces plus précises d'ici quelques jours. Et puis il y a des concours qui n'auront tout simplement pas lieu. Ce sont les épreuves post-bac pour accéder aux instituts d'études politiques, les IEP, ou le concours commun Sésame pour entrer dans une des 14 écoles de commerce et de management. À la place, là, ce sera un examen des dossiers des candidats via la plateforme Parcoursup. Chaque candidat sera informé personnellement dans les prochains jours. Et pour les partiels, les universités s'adaptent en proposant des examens sous forme d'oraux en visioconférence, de questionnaires ou de devoirs faits à la maison.
Virginie Salmen du service Société d'Europe 1.
Et en Italie, malheureusement, le nombre de morts est reparti à la hausse. Aujourd'hui, on a eu la confirmation tout à l'heure.
Et oui, effectivement, avec 743 morts en 24 heures après deux jours de baisse. Mais la contagion semble confirmer son ralentissement. Et puis, direction l'Espagne maintenant. L'Espagne, frappée de plein fouet également, elle est désormais le deuxième pays le plus touché d'Europe après l'Italie. Bonsoir, Henri de la Guérie.
Bonsoir, Isabelle.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Barcelone. Henri, les morts se comptent par centaines.
Oui, vous savez, l'Espagne a une semaine de retard sur l'Italie et 4 ou 5 jours d'avance sur la France. Alors, même si les chiffres sont impressionnants, 2000 personnes sont déjà décédées. Malheureusement, ils ne surprennent pas ici. La pression sur les hôpitaux ne cesse de s'accentuer. J'ai pu joindre Félix Del Ojo, il est médecin urgentiste à Almeria, en Andalousie. Il est en première ligne face à l'épidémie. Hier, il n'a pas réussi à réanimer un malade de 45 ans qui était en arrêt cardiaque lorsqu'il est arrivé à son domicile.
Nous sommes dans une situation comparable à une catastrophe. C'est dur parce que nos moyens sont absolument dépassés par le numéro de personnes. Désormais, il faut faire un tri beaucoup plus drastique. Pourquoi ? Parce que on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps, mais on a beaucoup de gens qui aussi ont besoin d'aide. Et donc, ça nous oblige à prendre une perspective de médecine militaire.
L'armée, justement, est déployée dans tout le pays. Elle construit des hôpitaux de campagne. Le pic de contamination n'est pas attendu avant la fin de la semaine. Et d'ici là, le nombre de décès va s'accélérer. À Madrid, une patinoire a été transformée en morgue pour entreposer les corps des victimes. Dans ce panorama très sombre, l'Espagne se raccroche au seul chiffre réconfortant, celui des personnes guéries. Près de 4000 patients ont surmonté la maladie.
Merci beaucoup Henri Delaguerry, correspondant d'Europe 1 en Espagne. Les États-Unis comptent eux désormais 600 morts et près de 50 000 cas officiellement déclarés. Et pourtant, sur la chaîne Fox News, Donald Trump déclare aujourd'hui qu'il adorerait, je cite, il adorerait lever les restrictions d'ici le 12 avril, c'est-à-dire pour Pâques.
Et puis deux personnalités très appréciées des Français nous ont quittés aujourd'hui.
Le saxophoniste Manu Dibango a succombé au coronavirus. Il avait 86 ans. C'était une légende. Il avait été hospitalisé il y a quelques jours en région parisienne après avoir été contaminé donc par le Covid-19. Et puis ce matin, on apprenait également la disparition du dessinateur Albert Uderzo, créateur d'Astérix et Obélix avec René Goscinny. Il est mort dans son sommeil à 92 ans. Rien à voir donc avec le coronavirus. Le réalisateur Laurent Tirard a adapté au cinéma l'album Au service de Sa Majesté, c'était en 2012 avec Édouard Baird et Gérard Depardieu.
Je me souviens, donc je travaillais sur le projet d'adaptation d'Astérix chez les Bretons. Et j'avais eu l'idée de mélanger les deux albums avec Astérix chez les Normands. Et en fait, les quelques remarques, il n'a pas fait énormément de remarques sur le scénario, mais en fait, les quelques remarques qu'il a fait, il avait raison. Et il y a deux, trois choses où il a dit, ah non, ça, je pense que ça marche pas, etc. Et puis je me suis dit, non, oh, c'est pas grave. Et en fait, c'est les deux, trois choses qui ne marchent pas dans le film, c'est exactement ce qu'il avait vu. Donc, il connaissait vraiment, vraiment très, très bien son œuvre. Il avait un œil vraiment acéré. Et puis, l'autre chose qui m'a frappé, c'est quand je me suis attelé à la réalisation de l'album, la mise en scène était déjà là, quoi. Elle était dans les cases. Je me suis rendu compte qu'il dessinait vraiment comme un metteur en scène, comme un réalisateur, quoi. Tout était là. La façon de raconter l'histoire était déjà inscrite dans les cases.
Le talent d'Albert Uderzo, salué ce soir sur Europe 1 par le réalisateur Laurent Tirard, joint par Pauline Jacquot.
Et merci beaucoup Isabelle Millet. 19h30, vous serez là avec de nouvelles infos. Anissa, du côté du temps, toujours du gris dans le ciel du sud.
Oui, exactement, Nathalie. Depuis plusieurs jours, il fait beau au nord et beaucoup moins beau au sud. Alors demain matin sur les Pyrénées, eh bien nous aurons des nuages avec des averses et des chutes de neige à partir de 1000 mètres d'altitude. Sur le littoral méditerranéen, sur les Alpes du Sud et sur la Corse, le ciel est très couvert demain dès le début de journée, avec tout au long de la journée de demain des averses et même sur les côtes varoises et le Cap Corse, ce vent de nord-est qui souffle en rafale jusqu'à 80 km/h demain, et ce vent de nord-est va faire baisser les températures. Au nord d'une ligne qui coupe la France en deux, de la Gironde jusqu'aux Alpes, et bien là le temps est très agréable demain. Le ciel est dégagé, le ciel est ensoleillé toute la journée sans aucun nuage. Attention tout de même sur l'Alsace et la Franche-Comté, on attend du vent de nord qui va souffler demain dans l'après-midi. Ce vent va se lever à la mi-journée pour atteindre des pointes à 50 km/h, et là aussi ce vent du nord va bien rafraîchir l'atmosphère. Alors écoutez bien, demain matin on va se réveiller avec des températures négatives, moins 6 attendues à Chamonix, moins 5 à Gérardmer, moins 4 à Épinal, 0 à Paris, ça baisse bien, et jusqu'à 7 degrés à Perpignan sera la maximale pour demain matin. Et puis dans l'après-midi nous aurons 10 degrés à Bastia, Cherbourg et Belfort, 12 à Saint-Étienne et Lille, 13 pour Paris, 15 à Périgueux, et la maximale elle est pour Mont-de-Marsan avec 16 degrés.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Nathalie Lévy.
Avec, dans un instant, l'interview politique à distance signée Aurélie Herbemont. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir
Et votre
Nathalie.
Invité du soir.
Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. La France Insoumise qui a voté contre l'état d'urgence sanitaire ce week-end à l'Assemblée. L'Union Nationale est-elle encore de mise? On en parle avec lui.
Et à 19h20, je vous annonce d'ores et déjà demain en France, agriculteurs qui cherchent des bras, annonce urgente. Et à 19h30, soyez avec nous au rendez-vous avant les applaudissements de 20h en direct. On va rendre hommage à plusieurs métiers essentiels dans ce moment particulier, les éboueurs, les artisans, les profs, les marins pêcheurs. Comment vont-ils? On leur donne la parole ce soir, c'est après l'interview politique d'Aurélie Herbemont. C'est dans un instant sur Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous, Nathalie Lévy. Et à 19h15, c'est l'heure de l'interview politique d'Aurélie Herbemont.
Oui, avec votre invité ce soir, Aurélie Herbemont, le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, en ligne.
Bonsoir Alexis Corbière.
Bonsoir Alexis Corbière.
Bonsoir et bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien, tous ceux qui nous écoutent.
Et tout le monde est confiné et nous écoute effectivement ce soir. Le conseil scientifique estime indispensable de prolonger le confinement pour arriver à 6 semaines minimum au total. Confinement durci par le gouvernement hier. Les sorties doivent être limitées à 1 heure et à 1 kilomètre du domicile. Les marchés alimentaires sont fermés, mais pas de confinement total. C'est la bonne stratégie selon vous face au coronavirus ou il faudrait aller plus loin?
Bon, déjà, faut respecter ces consignes. J'invite chacun à bien comprendre l'enjeu. Je crois que tout le monde est en train de saisir la gravité de ce à quoi nous avons faire face. Mais nous, nous portons aussi la revendication, qui est celle appliquée dans beaucoup d'autres pays, de distribution de masques, de possibilité de tester davantage. Et on voit bien qu'on a en France une situation rendue plus difficile en raison sans doute de choix politiques dans le passé par différents gouvernements, de mettre fin à des stocks de masques que nous avions et à ne pas permettre à notre hôpital public de pouvoir accueillir à un degré supérieur la crise que nous avons. Bon, tout ça devra occasionner un débat une fois qu'on sera sorti de la crise, mais en l'état, respectons les consignes qui nous sont demandées, c'est une évidence. 6 semaines de confinement, ça semble indispensable, respectons-les, et pratiquons chacun tous ces gestes barrières, se laver les mains régulièrement, faire attention, tout pour empêcher la transmission de ce virus.
Vous considérez qu'il faudrait un confinement plus drastique, puisque dans le même temps, il faut rester chez soi, mais le gouvernement incite à continuer à aller travailler quand on le peut.
Voilà, vous pointez une contradiction. C'est une question que j'ai posée au gouvernement la semaine dernière. Vous savez que le Parlement a un peu repris, on en dira demain, son activité. C'est une question que j'ai posée. Madame Nico, ministre du Travail, m'a répondu. Ma question était, quelles sont les activités économiques essentielles? Il y a eu un décret du 14 mars du ministre Véran de la Santé qui pointait les activités qui devaient cesser, de manière assez floue, celles qui pouvaient continuer, mais il n'a pas été défini ce qu'est une activité essentielle. Et nous savons, vous savez qu'il y a encore des chantiers qui continuent, etc. Et sur un chantier, ça nécessairement cela mène à ce qu'il y ait entre les ouvriers des contacts et les mesures de sécurité ne peuvent pas complètement être respectées. Donc il faut désormais définir de quoi nous avons besoin durant ce confinement de manière claire, et tout le reste doit s'arrêter. Et de ce point de vue-là, admettez qu'il y a des injonctions contradictoires. Le président de la République a dit, c'était son interview du 14 ou 16 mars à la télé, si vous voulez nous aider, restez chez vous, mais c'est pas vraiment la consigne qui est donnée. Il y a encore des gens qui vont au travail et qui ne sont pas évidemment dans une activité, je pense pas, j'évoque pas là, bien sûr, tous les personnels de la santé et toute la chaîne qui permet que nous puissions répondre aux besoins élémentaires. Donc c'est le flou, le grand flou de la part de ce gouvernement sur qui peut aller au travail ou pas. Je trouve que là-dessus, nous manquons de précision. Nous avons demandé qui est un conseil un peu large, qui l'a mis en place. Pourquoi pas des scientifiques, pourquoi pas des forces politiques, pourquoi pas même des organisations syndicales. Nous pensons même que les salariés doivent se réunir sur le lieu d'entreprise.
Alexis Corbière,
votre invité donc.
On va le retrouver dans quelques secondes.
Bientôt, mais...
Allez, voilà. Ah.
On vous avait perdu quelques secondes, Alexis Corbière.
Ah, excusez-moi. Voilà.
C'est pas grave, ça fait partie de la radio en mode confiné à distance. Nos auditeurs le comprennent. Alexis Corbière, vous ne comprenez pas que le gouvernement refuse de mettre l'économie à l'arrêt et finalement encore plus à mal qu'elle ne va déjà l'être?
Mais attendez, ce dont on a besoin, c'est de sortir au plus vite de cette crise. Au plus vite, c'est l'intérêt général, c'est ça. Et ça touche en plus beaucoup d'autres pays. On ne va pas mettre des gens en danger.
Alors, de nouveaux petits problèmes techniques. Donc, avec Alexis Corbière, votre invité ce soir, le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, on parlait évidemment de cette dualité entre le fait d'autoriser les gens à travailler, tandis que la France, dans son ensemble, doit être confinée. Et ce, pour 6 semaines, c'est encore une fois ce soir le Conseil scientifique qui l'a rappelé, qui exige effectivement un prolongement d'au moins 6 semaines. Et vous êtes en ligne, mais par téléphone.
Allô,
donc on va vous retrouver sans difficulté cette fois.
Allez-y, par téléphone. Excusez-moi à tout le monde. Voilà. Excusez-moi à tout le monde. Je fais ce que
les
je
réseaux sont beaucoup sollicités. Tout le monde le comprend, Alexis Corbière. On sentait au début de la crise qu'il y avait une forme d'union nationale derrière le gouvernement. Et depuis quelques jours, vous l'évoquiez, on parle de critiques à propos des masques, des tests, des médicaments. La France Insoumise, d'ailleurs, a voté contre la loi d'urgence sanitaire. L'union sacrée, elle est fissurée aujourd'hui, Alexis Corbière?
Bon, déjà, union sacrée, vous savez, c'est un vocabulaire de la Première Guerre mondiale. N'utilisons pas ce vocabulaire. Donc, il faut tout faire pour que le plus rapidement les bonnes mesures soient prises. Nous, pour ce qui est de la France insoumise, nous avons voté favorablement à toutes les bonnes mesures, y compris le plan de loi de finances rectificative qui apportait quelques moyens supplémentaires. Nous y sommes favorables. Mais c'est aussi le moment quand même à ce qu'il y ait des choses qui nous semblent non efficaces. Je prends un exemple pour quand nous avons voté contre, par exemple, la loi sur la mesure d'urgence, c'est que la loi sur laquelle elle s'appuie est une loi de 1955 qui ouvre la possibilité tous les 12 jours au Parlement de contrôler des mesures d'urgence un peu exceptionnelles et des pouvoirs qui sont donnés au gouvernement. 12 jours, c'est déjà beaucoup. On observera tous qu'il y a 12 jours, ce que disait le gouvernement n'est pas exactement la même chose que ce qu'il dit aujourd'hui. Là, le gouvernement a voulu élargir ce délai à 30 jours. Nous ne sommes pas d'accord pour mettre totalement entre parenthèses une vie démocratique de contrôle de la part du Parlement, parce que le Parlement, par son regard plus large, et bien souvent aide l'action gouvernementale. Et vous voyez, ensuite, il y a des mesures qui ont été prises, notamment celles qui permettent de la part des employeurs, en quelque sorte, de forcer à ce que des gens prennent des congés, et ça ne me semble pas du tout être actuellement ce qui est nécessaire. Bien entendu, beaucoup de gens sont disponibles pour donner plus, pour sortir au plus vite, mais il y a là une manière de piétiner le code du travail et les droits sociaux qui ne nous semblent pas bons, alors que l'urgence serait plutôt à ce que les gens se réunissent au niveau de leurs unités de production pour prendre les bonnes décisions, mais ne passons pas immédiatement par cette façon de mettre à bas le code du travail. Mais chaque fois qu'il y a une bonne mesure, on y est favorable, mais nous ne votons pas des choses qui nous semblent non efficaces. Et je répète qu'après, sur tout ce que nous avons fait dans toutes nos interpellations, encore aujourd'hui ou la semaine dernière, c'est demander à ce que des tests puissent être pratiqués beaucoup plus largement, à ce que des masques soient fabriqués, que tous les moyens de réquisition d'outils de production soient faits pour que des masques soient fabriqués au plus vite. Et c'est ça qui nous semble important, et là-dessus, le gouvernement a souvent flotté. J'observe que désormais, le ministre Véran est favorable à ce qu'il y ait des distributions de masques, mais la semaine dernière, il nous disait que ça n'était pas le cas, et on a même vu la porte-parole du gouvernement dire que le problème des masques, c'est que les Français ne savent pas le porter.
Alors Alexis Corbière, le ministre de la Santé Olivier Véran l'a reconnu cet après-midi à l'Assemblée, il y a des difficultés matérielles sur les masques, les réactifs pour les tests. Il explique aussi que la mondialisation a eu un impact sur la capacité des États à se prémunir de la survenue d'épidémies. Cette crise du coronavirus, ça doit être l'occasion de changer de modèle pour vous ?
Évidemment, c'est une crise qui est amplifiée par la crise de notre système économique. Il faut aller désormais vers des planifications sanitaires. C'est tout l'inverse de la loi du profit qui déterminait beaucoup des échanges dernièrement. Nous avons eu pendant longtemps la France des stocks de millions de masques, mais ils ont été progressivement abandonnés parce qu'on a considéré que finalement la Chine en produisait, que ça ne servait à rien d'en stocker. Et ainsi de suite, de la même façon que personne ne peut nier que l'hôpital public a été maltraité. On a fermé 10 000 lits ces dernières années. Les personnels hospitaliers, avant la crise du coronavirus, étaient fortement mobilisés pour alerter sur les conditions terribles dans lesquelles ils travaillaient. C'est ce monde-là aujourd'hui qui est percuté par le virus. Et je forme le vœu que, de manière collective, il y ait une prise de conscience qu'il faut, une fois que tout sera sorti, dans 5-6 semaines, il faut que nous commencions un nouveau monde basé sur des solidarités, basé sur d'abord la recherche de l'intérêt général, sur des investissements à long terme, sur des planifications, comme la question écologique qui pourrait être abordée, qui est un peu liée à celle du virus, pour éviter que ce monde soit détruit par notre système de production, par ce productivisme fou dont souvent la seule logique c'est la recherche de bénéfices plus importants. C'est la même critique que je portais sur la loi d'urgence. On demande aux salariés de faire des efforts, de donner 6 jours de leur congé, mais est-ce que les 1% les plus riches en France, qui ont vu leur fortune augmenter de plus de 20% l'année dernière, est-ce qu'eux ils vont donner 1% de leur richesse ? Est-ce que sur les 60 milliards qui ont été reversés aux actionnaires de l'an dernier de dividendes, est-ce qu'on va en ponctionner une part ? Vous voyez, c'est un autre modèle qu'il faut mettre en place. Parce que vous savez, sinon, on va revivre la même chose. C'est ça que nous ne voulons pas. Là, désormais, moi, j'observe que dans notre population, il y a beaucoup de discipline. Les gens comprennent qu'il faut respecter les consignes. Mais évidemment qu'une fois que nous serons sortis de tout ça, le moment du débat doit avoir lieu. Et des ruptures nettes avec les choix économiques et sociaux précédents. Le président de la République lui-même l'a dit. Le problème, c'est que bien souvent, on ne comprend pas très bien la parole présidentielle qui va à rebours de toutes les politiques qui étaient menées précédemment et qui même dans les faits concrètement n'est pas toujours à la hauteur des grandes promesses qui ont été faites lors de ces allocutions télévisées. Mais moi je ne veux pas polémiquer trop dans la période. D'abord, faisons face au virus. Oui, pardon.
Alexis Corbière, faisons face au virus. Effectivement, c'est votre message du soir. Et aussi, vous appelez à un nouveau monde. Merci beaucoup d'avoir été mon invité malgré les difficultés.
Europe 1. Il est 19h25 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Et avant 19h30, chaque soir, on prend un temps d'avance. On en parlait tout à l'heure à 18h20 avec votre invité, Nathalie, le patron des magasins Lidl en France. Va-t-on vers une pénurie de certains produits frais?
Eh bien, écoutez, on verra. En tout cas, ce qu'il en est là à l'heure actuelle, c'est que les agriculteurs appellent à l'aide et nos artisans, il faut les écouter, il faut leur donner la parole. Nos profs, nos taxis, nos commerçants, tous ceux qui sont dehors malgré tout, comment vivent-ils cette période? C'est important de les entendre ce soir, c'est ce qu'on va se dire. Demain en France d'abord et demain dans le monde. Demain en France, bonsoir Tafil Kossa.
Bonsoir Nathalie.
Alors plusieurs syndicats du monde agricole tirent en effet la sonnette d'alarme. Il faut une armée derrière nos agriculteurs.
Oui, un cri d'alarme relayé par le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume qui lançait un appel ce matin, je cite, « Aux femmes et aux hommes qui ne travaillent pas, qui sont confinés, rejoignez la grande armée de l'agriculture française. 200 000 emplois directs seraient à pourvoir en ce moment dans les métiers de l'agriculture, notamment à cause de la fermeture des frontières. Les agriculteurs ne peuvent plus compter sur les travailleurs saisonniers étrangers pour les aider, des saisonniers qui viennent habituellement en nombre à cette période, depuis l'Espagne, le Maghreb ou les pays de l'Est. C'est le cas pour Pascal Herbin, exploitant en Seine-et-Marne, lui produit notamment des asperges, et la récolte devrait déjà avoir commencé.
Je prends de la main-d'œuvre saisonnière pendant 10 semaines pour mes récoltes, notamment des Polonais, et cette année, ils ne peuvent pas venir. Nous n'avons pas la main-d'œuvre, et également le problème de pouvoir vendre nos produits, puisque depuis hier soir, ils ont fermé les marchés locaux. On essaye de retarder au maximum la production. On va essayer de retarder avec des systèmes de bâche pour pas trop chauffer les buttes, et en espérant qu'au mois d'avril, les choses s'améliorent.
Et en plus du manque de main-d'œuvre, cet exploitant s'inquiète de la baisse de la consommation. Depuis le début de la crise, les Français ont privilégié les pâtes, les pommes de terre, les conserves au détriment des produits frais. Or, en l'absence de consommation, certains exploitants sont obligés de stopper leur production. En conséquence, des risques de pénurie sur des produits comme les asperges, les salades, les fraises. Il faut absolument que les gens reviennent à une consommation régulière, sinon beaucoup d'exploitations vont y rester, me confiait Pascal Herbin. Alors pour aider ces agriculteurs, vous pouvez vous porter volontaire en vous inscrivant via le site internet Des bras pour ton assiette, en partenariat avec Pôle emploi, qui propose une mise en relation avec les exploitants dans le besoin, à la clé des emplois rémunérés pouvant compléter un chômage partiel par exemple. Et puis vous l'avez entendu, consommer autant que possible des produits frais, geste très simple pour soutenir nos agriculteurs en ces temps de crise.
Et les fraises, les asperges, allez-y en nombre, c'est bon, ça fait du bien à nos agriculteurs, il faut les aider. Merci beaucoup Théophile Kossa. Demain dans le monde, c'est avec Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir Nathalie.
Alors où en France on a encore durci les mesures de confinement et où on part sans doute pour 6 semaines, nous faisons un tour d'horizon et voyons sur les 5 continents où en est la pandémie, comment cela se passe et quelles sont les mesures prises ailleurs.
Eh bien, ce jour, 1 700 000 habitants de la planète sont confinés, ou en tout cas soumis à des mesures de confinement, ce qui fait une personne sur 4, et le nombre de morts recensés est de 16 000.
Et on n'a pas encore franchi le pic épidémique, hein.
Alors, au niveau mondial, pas encore, avec en Afrique par exemple l'épidémie qui ne fait que commencer avec des couvre-feux et des états d'urgence proclamés la nuit dernière au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en Afrique du Sud. L'Amérique latine n'en est également qu'au premier stade de la maladie parce qu'elle a été touchée plus tardivement. Et là aussi, la principale solution, c'est la fermeture des frontières. En Argentine, au Venezuela, bientôt au Chili ou au Brésil, la grosse inquiétude étant le Mexique qui pour le moment n'a envisagé aucune mesure restrictive.
Et toujours sur le continent américain, l'autre situation extrêmement ambiguë, c'est celle des États-Unis, hein.
Oui, avec un bras de fer engagé entre les gouverneurs, à commencer par celui de New York, qui réclame une décision de confinement au niveau fédéral pour pouvoir mobiliser l'ensemble des moyens, ce à quoi Donald Trump se refuse, car son obsession, c'est l'économie, qui effectivement est terriblement mise à mal par les limitations de déplacement.
Eh oui, là encore la quadrature du cercle, mais pourtant le confinement, il fonctionne, hein.
Oui, et c'est la bonne nouvelle. L'Italie, par exemple, enregistre depuis 2 jours des chiffres encourageants avec une baisse à la fois du nombre de morts et du nombre de contagions. Alors ce n'est pas terminé, mais on aperçoit le bout du tunnel. Et d'ailleurs, en Europe, les pays en retard sur les mesures de confinement sont en train de s'y mettre. C'est le cas de la Russie et de la Grande-Bretagne.
Et on termine sur l'Asie?
Oui, avec des situations très contrastées, plutôt inquiétantes au Pakistan et en Inde, qui vient d'ailleurs d'imposer un confinement. sont des pays très peuplés sur lesquels on manque de données et qui pourraient être de véritables bombes à retardement sanitaire. Et puis, une vraie lueur d'espoir en Chine où après 2 mois et demi d'isolement total, les habitants de la province de Hubei pourront dès demain se déplacer librement avec une option pour le 8 avril, levée aussi de ce confinement dans la ville de Wuhan qui avait vu débuter la contagion.
Et on a cru, vous le disiez, Didier François, des chiffres encourageants en Italie, mais qui ont été douchés ce soir par le nouveau bilan. On est à 743 morts aujourd'hui. Néanmoins, après 2 jours de baisse, on y reviendra, bien entendu, à la situation italienne, mais à travers le monde également. Grâce à vous, demain dans le monde, Didier François. Merci.
Europe 1. À suivre dans la prochaine demi-heure de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
À 20h, on ouvre nos fenêtres, on vit ensemble ces applaudissements une fois encore partout en France. Et puis, après les soignants hier soir, on va donner la parole à ceux qui sont dehors, en dépit du danger, en dépit des risques, les marins-pêcheurs, les artisans, les éboueurs. Comment vont-ils? On va les écouter, comprendre leur quotidien en ce moment même. D'abord, votre rappel des titres, Isabelle Millet.
Il est 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Isabelle Millet.
Et le conseil scientifique qui recommande un confinement de 6 semaines minimum, c'est indispensable, dit-il. Il estime aussi qu'un renforcement de ce confinement est nécessaire. Écoutez la réaction il y a quelques instants du ministre de la Santé, Olivier Véran.
Le conseil scientifique s'est exprimé en donnant une estimation. Je parle bien d'une estimation parce que si vous posez la question à tous les membres du conseil scientifique, personne n'est capable de vous dire avec précision si le confinement doit être de temps, de telle durée ou de telle durée. Encore une fois, grande prudence. Non pas qu'on n'ait pas envie d'avertir les Français que le confinement serait amené à durer, mais parce que cette réponse, nous ne l'avons pas. Nous sommes là dans des estimations. Le confinement, il a une vocation, protéger les Français. Tant qu'il devra durer, il durera. Si nous avons la possibilité de lever le confinement plus tôt, nous le ferons évidemment, il n'y a pas de raison de poursuivre dans la durée.
Olivier Véran qui réagit donc à l'avis du conseil scientifique qui recommande ce soir un confinement de 6 semaines minimum. Le ministre annonce par ailleurs que la France va démultiplier le nombre de tests de dépistage. En Italie, le nombre de morts est reparti à la hausse aujourd'hui avec 743 décès en 24 heures après 2 jours de baisse. Et puis c'est officiel, les JO de Tokyo qui devaient se dérouler cet été sont reportés au plus tard à l'été 2021.
Merci beaucoup Isabelle, à demain. Dans votre salon, et vous avec votre chausson, avec vos chaussons. À 18h. Anissa, on ne rit pas. Une belle journée au nord demain.
Non, on va faire un concours de chaussons, je crois, bientôt. Oui, effectivement, Nathalie, il fait très beau au nord demain avec une frontière qui coupe la France en deux, qui va de Bordeaux jusqu'à Chambéry. Au nord de cette limite, c'est du grand, beau et franc soleil demain sans aucun nuage dans le ciel. Et puis au sud de cette frontière, c'est un peu plus compliqué, notamment sur les Pyrénées, le littoral méditerranéen et la Corse, où là le ciel sera gris, nuageux, avec des averses qui vont ponctuer cette journée. Et puis sur les reliefs, les Alpes du Sud et les Pyrénées, nous aurons des chutes de neige demain à partir de 1000 mètres d'altitude. Et puis toujours ce vent de nord-nord-est qui souffle avec des rafales jusqu'à 80 km/h, notamment sur les caps Corse et le littoral méditerranéen. Les températures, elles sont en chute libre avec ce vent du nord. Moins 4 à Épinal, moins 3 à Clermont-Ferrand et Manosque, moins 1 à Dijon, 0 pour Paris, 6 à Toulouse demain matin. Et puis dans l'après-midi, ça continue de baisser avec 11 à 16 degrés, 11 à Strasbourg, 13 à Paris et 16 à Limoges.
Europe 1. La suite de votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Hier soir, Nathalie Lévy, pendant une demi-heure, nous rendions hommage au personnel soignant. Ce soir, hommage à ceux qui sont dehors pendant ces moments difficiles. Ils prennent la parole partout en France pendant une demi-heure et vous pouvez venir nous rejoindre. N'hésitez pas, vous voulez leur faire passer un message, les remercier, vous voulez tout simplement témoigner. Ça se passe au 3921 et bien sûr sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte. Et je vous rappelle que tous les bénéfices du 3921 sont reversés à l'Institut Pasteur.
Et oui, on va s'intéresser à ces éboueurs, ces caissières, bien sûr, tous ces métiers qui continuent, tous ces travailleurs qui continuent d'exercer là à l'heure actuelle. On prend la direction de la Haute-Garonne pour commencer. Bonsoir Benjamin Péter.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alors depuis le début du confinement, beaucoup d'entreprises sont à l'arrêt complet. Pas question de prendre de risques. C'est le cas notamment de cette entreprise de couvreurs que vous avez pu joindre. Jusqu'ici, ils tiennent le coup, mais son patron s'inquiète pour les prochaines semaines.
Oui, depuis une semaine, tout est à l'arrêt pour eux. Laurent Aubel, le patron des couvreurs occitans, a pris la décision de ne laisser plus aucun de ses salariés monter sur un toit pour leur propre santé, mais aussi parce que la plupart de leurs clients n'ont tout simplement pas envie de les voir venir travailler chez eux. Les administratifs peuvent télétravailler, mais concrètement, plus rien ne rentre dans les caisses. Et ce qui est le plus difficile à vivre pour Laurent Aubel, c'est qu'ils n'ont aucune idée de quand ça va s'arrêter. Impossible d'anticiper.
On n'a pas de perspective. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. On sait que la priorité, c'est l'urgence sanitaire. Aujourd'hui, j'ai une responsabilité par rapport à mes équipes, c'est-à-dire que je peux pas les envoyer sur les chantiers au risque qu'ils tombent malades. Mais j'ai aussi j'ai une quarantaine de familles derrière moi. Et ces gens-là, à la fin du mois, c'est moi qui vais devoir verser les salaires et le mois prochain aussi, même si on n'a pas produit, parce qu'on sait très bien que les aides du gouvernement, elles arriveront qu'après. Et même si aujourd'hui mon entreprise est en bonne santé, on pourra pas tenir comme ça des mois. Aidez-moi. C'est évidemment des insomnies supplémentaires. Je suis levé très tôt. C'est une situation qui est très stressante, bien sûr.
Alors, il fait des hypothèses, un calcul, recalcule les besoins de liquidité de trésorerie, parce que ce qu'il me disait, c'est que, bien sûr, les banques suivront, puisque l'État se porte garant. Sauf que cet argent, il ne tombe pas du ciel. Il va falloir les rembourser sur 5 ans, sans compter les charges qui sont reportées, et qu'il faudra bien finir par payer. Et le risque, c'est que beaucoup d'entrepreneurs s'endettent beaucoup trop et mettent en danger la rentabilité de leur entreprise.
Merci beaucoup Benjamin Peter pour Europe 1 depuis la Haute-Garonne. Alors on va prendre la direction de la mer maintenant, enfin, ou presque, à Brest, à côté, la commune de Port-Sal. Bonsoir Philippe Perrotte, merci beaucoup.
Oui.
Vous êtes marin-pêcheur, merci d'être avec nous. Votre spécialité, ce sont les coquilles Saint-Jacques, la pêche à la ligne également. Comment vous vivez en ce moment cet épisode, cette situation extrême?
Oui, bonsoir à tous. Actuellement, nous on est stoppé, on est bloqué à quai là, parce que le marché, le marché est mort. En fait, on n'a plus de débouchés donc vers l'Italie et l'Espagne et le reste de la France. Ici, c'est compliqué de pouvoir vendre une coquille Saint-Jacques.
Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que vous craignez sur le prix du poisson. Le prix se vendra-t-il à un prix correct? Ça, aujourd'hui, vous, sur les coquilles Saint-Jacques, typiquement, vous êtes très inquiet? Vous avez des retours?
Oui, on est très inquiet parce que, en fait, on avait un système de compensation pour, en fait, éviter les fluctuations du marché. Et, en fait, les compensations n'existent plus parce que, en fait, ces organismes-là n'ont plus d'argent de trésorerie pour pouvoir pallier aux difficultés du marché. Donc c'est pour ça que les bateaux, surtout les hauturiers, là, les bateaux du Guilvinec, les gros bateaux sont à quai, parce que en fait ils ne savent pas s'ils peuvent vendre leur poisson en fait. Donc le fait d'aller en mer, dépenser du gasoil, des décharges, en fait on n'a aucune visibilité sur en fait de la vente du poisson derrière.
Ouais, c'est ça. Dans votre bateau, il y a un équipage ou vous êtes seul à bord?
Alors j'ai un matelot là. Donc ouais. on est deux.
Donc vous êtes au chômage technique là?
Le gouvernement a connu le Covid de l'activité partielle pour mon matelot. Mais pour les indépendants comme moi, les patrons de petites PME, de très petites entreprises, on n'a pas de visibilité, on sait pas si ça on pourra bénéficier de quelque chose.
Donc c'est très dur moralement?
Ouais, pour le moral, parce que en fait on n'a pas été gâtés cet hiver. On a eu 4 à 5 mois de mauvais temps, de tempête, tempête sur tempête. Et là, on voyait le soleil qui arrivait et on pouvait en fait ressortir et refaire de trésorerie. Et puis, c'est une nouvelle catastrophe qui nous tombe dessus.
Une nouvelle catastrophe qui vous tombe dessus, on l'a compris. Donc il faut aussi acheter le poisson parce que, on l'a compris, c'est important. C'est comme les produits frais, les fraises ou les asperges. Les poissons, le poisson va-t-il encore se vendre à un prix correct? On a entendu évidemment votre inquiétude de Philippe Perrotte qu'on relaie ce soir encore sur Europe 1. Merci beaucoup de nous avoir répondu ce soir en direct. Merci, on va se retrouver dans un petit instant sur Europe 1 3921 et puis hashtag Radio Ouverte. On est ensemble jusqu'à 20h. On donne la parole à tous ces professionnels, ceux qui sont encore là sur le terrain, qui nous alimentent, qui nous conduisent, qui nettoient aussi les rues un peu partout en France et qui sont, eh bien, qui mettent aussi en sécurité leur vie au quotidien. À tout de suite.
Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. Ce soir, Nathalie Lévy, nous rendons hommage sur Europe 1 à tous ceux qui sont dehors pendant ces moments difficiles de confinement. Ils prennent la parole partout en France pour nous expliquer leur quotidien pendant une demi-heure.
Et on prend la direction de la région lyonnaise. On continue de passer en revue effectivement tous ces professionnels. Jean-Luc Boujon, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
On va parler avec vous de ces enseignants désormais qui en ce moment sont encore plus importants que d'habitude pour nos enfants et qui maintiennent le lien avec eux via les cours à distance. Et ils le font très bien, je peux en témoigner.
Oui, c'est le cas de Valérie, une haut-savoyarde exilée à Besançon, prof de français au collège Victor Hugo. Tous les jours, elle assure entre 2 et 4 heures de cours quotidiens à distance avec ses élèves. Alors concrètement, elle est installée dans son salon devant son ordinateur, webcam éteinte, hein, c'est un choix d'établissement. Mais on est bien en présence d'une classe virtuelle avec ce matin 24 élèves de 4e, eux aussi devant leur ordinateur. Et c'est bien un vrai cours ici de grammaire qui se déroule.
Est-ce que vous pouvez me récapituler les 9 natures de mots qui sont à mémoriser? Qui est-ce qui veut prendre la parole? Sarah?
Les verbes.
Oui.
Les déterminants. Oui. Les adverbes. Les adjectifs. Les prépositions. Les conjonctions de coordination.
Oui.
Je sais plus après.
Voilà, vous compléterez de vous-même, wow. Nathalie, hein, il en manque 3.
Oh là là, attendez, je réfléchis un peu. Bon, ça marche bien alors, en tout cas, hein, on le constate.
Bah, écoutez, globalement, oui, hein, ça fonctionne. Alors, faut dire que les profs ont eu ici une formation express. Hein. On peut dire qu'ils apprennent un peu en marchant, notamment sur la maîtrise de cette plateforme informatique. Ici, c'est celle du CNED qui est plutôt bien faite. Par exemple, quand un élève lève le doigt, il y a une petite lumière rose qui apparaît sur l'écran du prof et qui lui désigne l'élève demandeur. Donc, dans l'ensemble, Valérie trouve ça certes moins bien qu'un vrai cours, mais plutôt satisfaisant sur un point notamment.
Pour les élèves, ce qui est bien, c'est d'avoir des choses à faire, un emploi du temps, un cadre, et puis du coup de pas se laisser aller à soit une anxiété, une angoisse ambiante ou à une sorte d'apathie. Ben voilà, on attend que ça se passe, on dort, on fait une grasse matinée jusqu'à midi 1h, on fait rien de ces journées. Là, il y a quand même matière à travailler.
Voilà, ça oblige les élèves à rester actifs, en éveil, et c'est sans doute ça l'avantage des cours à distance qui n'existent pas partout, hein, faut le dire. Et ces cours, vont, par la force des choses, durer encore un bon moment.
Eh oui, exactement. Merci beaucoup. Jean-Luc Boujon, merci à vous. On était en région lyonnaise avec vous. Là, ça fonctionnait. On l'a bien compris. On a vu cette professeure qui met du cœur à l'ouvrage. Christophe Frediani, bonsoir. Êtes-vous aussi professeur de maths, cette fois au lycée Victor Hugo à Gaillac. C'est en zone rurale, zone blanche, hein, pour être exact. Zone blanche, ça veut dire qu'en termes d'Internet, c'est compliqué, c'est ça?
Mais oui, bien sûr. Pour nous, c'est compliqué d'organiser ces visioconférences comme elles ont pu être décrites par l'intervenant précédent, parce que c'est très compliqué de se connecter, avoir tous les élèves en même temps. Et de toute façon, il y a un véritable problème avec le concept même de continuité pédagogique. Pour moi, ce n'est que finalement que slogan publicitaire, parce que c'est profondément inégalitaire. On ne peut pas toucher tous les élèves. Moi, j'ai
visioconférences,
bien sûr. Moi, j'ai parfois 80-90% de mes élèves de terminale qui se connectent, mais par contre, en seconde ou en première, on peut tomber à 25%. Donc là, on est pris dans un étau. On a une injonction. On doit faire comme si tout était normal, mais c'est pas normal. Et donc là, moi, je suis en attente qu'on ait des consignes beaucoup plus souples, parce que pour l'instant, on est censé continuer des programmes, on est censé avancer, on est censé préparer nos élèves à des examens comme les E3C en première dans quelques semaines, et ça va pas. C'est pas possible. Il y a trop d'élèves qui sont sur le côté.
Qu'est-ce qu'on vous répond du côté de l'éducation nationale aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que, d'ailleurs, vous travaillez avec quoi? Avec votre matériel à vous?
Ah ben oui, bien sûr, tous les profs en France se débrouillent avec ce qu'ils ont acheté eux-mêmes, donc nos ordinateurs, nos caméras, nos micros, si on en a. Il a fallu se débrouiller pour s'adapter très rapidement à cette situation. Pour les élèves, n'en parlons pas, hein. Bien sûr, ils n'ont pas tous un ordinateur, ils n'ont pas tous une chambre pour travailler tranquillement, donc c'est vraiment très compliqué. Au niveau de notre hiérarchie, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, c'est assez simple, les hiérarchies locales, les chefs d'établissement sont bien conscients de ce qui se passe. Par contre, les injonctions viennent du ministère, des départements, des académies, et là on n'est pas entendu, mais ça on commence à être habitué, ça fait quelques années que c'est comme ça. Et donc officiellement, d'après les textes, on est censé faire comme si de rien n'était.
Ouais. Et comment vous voyez le retour alors?
Pardon.
Comment vous voyez le retour? Parce que là, on nous parle de 6 semaines probablement de confinement encore. Comment vous imaginez le retour? Parce qu'il va y avoir un vrai décalage entre les élèves, c'est une évidence désormais. Comment vous envisagez, pardonnez-moi, les choses?
Ben, ça va être très compliqué parce qu'en effet, les écarts vont se creuser. Il y aura les élèves avec lesquels on aura réussi à maintenir un lien, pour lesquels on aura à peu près, on sera arrivé à maintenir leur niveau de connaissance, et puis des autres. Et donc, par rapport à ça, on a besoin d'avoir une vision à long terme qu'on n'a pas du tout pour l'instant. Donc, il faudrait qu'on sache dès à présent si les examens vont être maintenus, à quelle date, comment, quels sont nos objectifs. Là, pour le moment, on fonce tête baissée. Tout le monde essaie de faire des innovations technologiques, mais sans réfléchir à la finalité. On ne sait pas où on va. Moi, j'ai l'impression de jeter des bouteilles d'eau à la mer tous les jours, sans savoir qui va pouvoir les attraper, qui va s'en saisir. Et malgré tout, je me doute bien, je sais à peu près qui ne vont pas, quels sont les élèves qui ne vont pas arriver à s'en saisir.
À s'en saisir. Et vous y allez quand même, vous remontez les manches tous les jours, j'imagine, depuis votre domicile pour continuer néanmoins à épauler les élèves qui en ont besoin et qui peuvent effectivement être à la fois avec le matériel et avec les conditions et bien équipés. Merci beaucoup Christophe Frediani, professeur de maths au lycée Victor Hugo à Gaillac en zone rurale. On était dans le département du Tarn, dans la région Occitanie. On va filer du côté du sud-est maintenant, dans les Alpes-Maritimes. Depuis quelques jours, on transporte gratuitement les soignants. C'est avec vous Frédéric Michel qu'on en parle. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Précisément à Nice, Cannes, Antibes, les taxis ont décidé d'agir sans attendre la parution d'un décret instaurant la réquisition de leurs véhicules. Eux, ils y vont.
Effectivement, un décret du gouvernement qui tarde à venir. Alors les taxis des Alpes-Maritimes, via leur syndicat, ont pris l'initiative d'anticiper cette probable décision. Depuis quelques jours, ils transportent gratuitement des médecins, des infirmiers, des aides-soignants de leur domicile à l'hôpital et de l'hôpital au domicile. Ces taxis commencent à s'organiser avec notamment leur mairie pour obtenir des listes de professionnels à véhiculer. Jean-Pierre Romana est taxi à Antibes et président des radiotaxis antibois.
Pour ma part, j'ai déjà eu une liste de l'hôpital d'Antibes, une liste donc de personnel à transporter gracieusement. On a fait appel à nous avec les taxis de la Marne, bon, même si c'est bien loin, ça reste un souvenir quand même qui a marqué la nation. De notre côté, oui, on souhaite aussi participer. Oui, d'être utile, ça fait du bien. Rendre service, ça fait du bien. C'est aussi valorisant. On a une image qui n'est pas toujours brillante auprès du public. Donc c'est l'occasion aussi de démontrer qu'on fait partie de la nation et qu'on veut servir. Voilà.
Voilà, vous l'entendez, hein, c'est la mobilisation. Dans les Alpes-Maritimes, ils sont environ 500 artisans taxis. Hein. Tous sont appelés à jouer le jeu dans une période où les clients sont rares, voire totalement absent. Une inquiétude supplémentaire. Beaucoup craignent la faillite et espèrent qu'après la crise, ils seront aidés.
Merci beaucoup Frédéric Michel dans le sud-est de la France que l'on salue comme toutes les régions ce soir. Merci de nous faire vivre comme ça évidemment le quotidien de ces Français qui sont toujours à pied d'œuvre désormais dans des conditions souvent très compliquées. On va poursuivre dans un petit instant avec un technicien de surface, un éboueur, un chauffeur de benne ordure qui est au combat chaque jour pour laisser nos rues propres, accessibles. Vous allez voir comment il procède. Nos invités, nos témoignages, c'est 3921 et également hashtag Radio Ouverte, c'est Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h, vous allez vivre en direct comme chaque soir tous les applaudissements à travers la France entière. Mais avant cela, Nathalie Lévy, ce soir, nous rendons hommage à ceux qui sont dehors pendant ces moments difficiles. Ils prennent la parole partout en France jusqu'à 20h au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte.
Bonsoir Stéphane Morin.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Vous êtes éboueur, chauffeur de benne ordure précisément. Hein. Vous êtes aussi à l'arrière du camion pour une entreprise privée à La Rochelle. Alors, on a vu un témoignage il y a quelques jours, à trois dans un camion, sans masque et sans gel hydroalcoolique, les éboueurs nantais typiquement hein, qui criaient leur désespoir. Est-ce que vous êtes protégé?
Alors oui, nous avons la chance dans notre entreprise d'avoir des gels hydroalcooliques en notre possession, ainsi que des masques FFP2 en fait depuis mardi dernier, ce qui nous permet de travailler dans des conditions qui sont quand même assez particulières, qui restent assez anxiogènes, mais voilà. Enfin, je suis pas certain que ça rassure complètement les collègues, que ce soit à La Rochelle ou ailleurs. Hein, c'est assez compliqué.
Ouais. Après, est-ce que beaucoup ont exercé leur droit de retrait?
Alors ça n'a pas été le cas chez nous, on l'a envisagé un temps, mais notre entreprise ayant mis des mesures barrières, ça nous a permis en fait de travailler de manière un peu plus protégée et voilà, donc on s'est dit qu'on allait quand même travailler, même si aujourd'hui on se retrouve avec une partie des effectifs qui sont en train de se poser des questions et de se demander si s'ils vont continuer à travailler, hein, tout simplement. Bah oui. Voilà.
Oui, parce que j'imagine que vous avez tous peur pour vos familles quand vous rentrez à domicile. C'est quoi? C'est douche obligatoire? C'est on récure, on laisse ses affaires à l'extérieur? Comment vous fonctionnez?
Alors, ça ne change pas comme tout le reste de l'année. Hein. C'est la douche en fin de tournée, les vêtements qui sont laissés dans l'entreprise pour être lavés par généralement des prestataires extérieurs. Ça se passe généralement comme ça. Après, ben, je vous cache pas que ben, c'est compliqué parce que les collègues ont peur d'attraper des microbes dans les douches, sur les tournées. On essaye de passer des consignes à la population en demandant que les poches soient bien fermées, que les bacs, lorsque les vides de fond sont conteneurisés, que les bacs soient bien fermés justement et éviter un maximum de contact avec les déchets, voilà, tout simplement.
Mais comment fonctionnent les citoyens avec vous, les Français aujourd'hui? Vous avez entendu les applaudissements pour les soignants, oui. Et maintenant vous êtes cités comme les hôtesses de caisse, comme les commerçants d'alimentation. Vous êtes cités le soir, on vous applaudit vous aussi. Est-ce qu'on le fait ressentir?
Dans 5 minutes, je pense que les collègues vont... Là, je ne travaille pas ce soir exceptionnellement, mais en général, là, depuis une semaine maintenant, on a la chance d'être extrêmement bien accueillis, que ce soit des mots sur les conteneurs, les poubelles. On a des applaudissements dans des quartiers sensibles, dans des quartiers... Enfin, toutes les populations, en fait, toutes les catégories nous saluent et ça nous fait chaud au cœur parce que on fait partie des professions assez oubliées et on a tendance à... pas parler de nous en fait quand ça va bien, et quand ça va bien on parle pas de nous, et quand ça va mal on parle de nous généralement, voilà.
Et nous on parle de vous sur Europe 1, on vous donne la parole et on parle de vous et on vous salue et on vous remercie pour votre engagement. Merci beaucoup Stéphane Morin, vous avez représenté cette profession qui nous est plus que jamais utile, nécessaire. Merci à vous et
bonjour,
bon courage.
Bonjour à tous les collègues de France et des Dromcom en tout cas qui travaillent et chaque jour par tous les temps et dans le monde. Merci.
Exactement, vous avez bien raison. Merci à vous. On est avec Laurent également. Laurent, vous êtes boucher en supermarché à Lille. Bonsoir à vous. Bienvenue sur Europe 1 ce soir. Comment vous arrivez-vous à fonctionner aujourd'hui en tant que boucher de supermarché avec à la fois les risques sanitaires, bien sûr, pour vous, et puis pour l'alimentation, pour la viande, pour cette viande crue?
Bah oui, tout à fait, mais bonsoir. Bonsoir Nathalie. Moi, ce qui me fait peur, c'est que je suis plus du tout rassuré, mais vraiment, vraiment plus du tout. Pourquoi? Parce qu'en France, on est un pays qui n'est pas discipliné, pas du tout. J'ai vu tous les jours des personnes qui viennent 3 fois dans la journée faire leurs courses. Et puis, on éternue sans masque de sécurité, par exemple. Ça peut être sur les fruits, ça peut être sur la viande. Et puis, est-ce que notre vie, à nous, dans l'agroalimentaire, vaut 1000 euros de prime? J'en suis pas si sûr. Et puis, on va parler des joggeurs et des personnes qui sortent leurs enfants seulement à 1 kilomètre de chez eux. J'y crois pas. Les anciens qui sortent et qu'on voit 3 fois dans le magasin, dans la rue, alors que c'est les plus vulnérables. Les routes encore beaucoup trop fréquentées quand je rentre du travail. Les cités qui refusent le confinement. J'appelle tous ces gens-là, écoutez-moi bien, et oui, je vous le dis, des tueurs par dérogation. Et j'en ai marre. Et puis on peut parler du marché de la drogue, des terroristes qui n'hésiteront pas, oui, j'ose le dire, refiler le virus, d'accord, à nous, parce que ça, on n'en parle pas, on oublie tout ça. Alors, moi, je pense que c'est des erreurs de notre gouvernement de pas confiner le peuple une fois pour de bon, non pas pour 6 semaines, mais pour tout simplement 2 semaines. Et puis on met l'armée dans la rue et on les fait tous rentrer. On met, c'est-à-dire, on fait un couvre-feu à 19h et terminé. Et moi, je vais vous dire, aujourd'hui, je suis prêt à ouvrir une page Facebook. Oui, je suis prêt. De dire à toutes ces personnes de l'agroalimentaire de faire un droit de retrait. Et qu'est-ce qui va se passer?
Mais vous, vous continuez à y aller. Hein.
Plus.
Ouais. Vous continuez. Vous, on entend votre colère. On entend même votre désespoir et qui conduit à cette colère ce soir. Mais vous continuez. Vous continuez à travailler. Vous n'avez pas exercé votre droit de retrait. Vous n'allez pas le faire.
Non, je vais pas le faire parce que déjà je suis un passionné, je suis un pauvre petit boucher, vous voyez. Mais je suis un passionné de mon métier. Mais quand je vois ça, je suis absolument révolté. Je suis révolté par nos gouvernants. J'ai vu sur internet dernièrement, et pour clôturer ces conversations, j'ai vu dans l'Oise un maire qui interdit l'alcool. Et ben moi je bois une bonne bilouse aujourd'hui. Et puis quoi demain? Il va nous empêcher d'aller au radada de soins? Non mais attendez, ça veut dire tout le monde fait tout et n'importe de quoi. Et ça, j'en ai marre.
Vous avez des enfants, Laurent? Vous avez des enfants, Laurent?
Non, mais oui, j'ai un gosse qui est à l'appartement et qui travaille, oui, chez Uber Eats et qui voit ces gens.
Et donc, il travaille là, toujours. Il travaille toujours là?
Mais bien évidemment, et dans les cités à Lille, à la Citadelle, c'est des rassemblements de personnes, et on laisse faire ça. C'est l'armée qu'il faut mettre en place en France. Le gouvernement, aujourd'hui, doit être plus strict, un confinement total. Et puis, je regrette que le professeur Raoult eût claqué la porte, de cette conférence aujourd'hui. Voilà, moi je regrette, parce que ce mec-là, je lui tire mon chapeau et je l'applaudis de toutes mes forces. C'est pas les chansons de Goldman sur Internet ou les bêtises du docteur Simès, parce que on voit au début c'était on n'a pas avancé, on n'avance pas en France. Tout le monde dit tout et n'importe quoi. Et j'en ai marre. Oui, demain je vais prendre le couteau. Oui, je vais servir mon peuple, parce que nous sommes les derniers bastions de la nation aujourd'hui. Et ça va pas durer 6 semaines. Parce que je vais vous dire, en Afrique, c'est pas la chaleur qui tuera le virus. Et j'espère une chose, c'est qu'on rouvrira pas les frontières, au moins pendant 6 ou 8 mois, qu'on soit tranquille. Je suis pas RN, pas du tout. Je suis tout simplement
Citoyen en colère. Un citoyen en colère et un professionnel qui continue à faire le job, même si les conditions, on l'a compris, pour vous sont absolument aujourd'hui ubuesques et déraisonnables. C'est ce que vous nous avez dit, Laurent. On a entendu votre colère, on a entendu votre témoignage et vous continuerez demain. Vous y serez, vous servirez les clients qui se pressent beaucoup trop nombreux, dites-vous, et on vous a entendu. Merci beaucoup, Laurent. Merci à tous ceux qui nous ont contactés ce soir. Et comme tous les soirs, on donne la parole aux Français, on donne la parole aux soignants, on donne la parole à ceux qui sont sur le terrain. Et on les applaudit. Écoutez. Voilà, ces applaudissements à 20h, mais est-ce que ça suffit encore, ces applaudissements? En tout cas, restez chez vous, vous avez entendu le message de nos invités, vous avez entendu le message du gouvernement, restez chez vous, écoutez Europe 1, on sera là demain pour vous informer avec précision et avec le sourire, pour donner la parole à tous ces Français qui sont là, au rendez-vous, pour vous, chaque jour. Merci, votre grand journal du soir 18h demain, l'info qui continue évidemment avec le journal de 20h, merci à toutes nos équipes, merci à Christophe Pierrot chaque soir qui m'accompagne, merci à la rédaction en chef et à toutes les équipes qui fabriquent cette édition, merci à tous.